Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 21 avril 1993, diffusé dimanche 22 février 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonsoir, eh bien, tout vient à point à qui sait attendre, il est paru.
Il est arrivé.
Le libre journal de la France courtoise est arrivé.
Alors, il est beau.
Qu'il est beau. Alors, vous savez, c'est très amusant. Bonsoir, docteur. Docteur Dor qui nous rejoint, qu'on connaît. Asseyez-vous, docteur, je vous en prie. Le docteur Dor est, vous le savez, un des principaux animateurs des mouvements d'action contre l'avortement. Et nous allons nous entretenir tout à l'heure avec lui. Mais je vais vous parler d'abord du libre journal de la France courtoise, dont j'ai parlé à ce micro quelques fois. Et depuis quelques semaines, les questions se faisaient de plus en plus pressantes.
Alors, quand sort-il?
Eh bien, ça y est, c'est fait. Je l'ai sous les yeux, le numéro 1, avec des collaborateurs qui s'appellent Aramis Bage, qui est un dessinateur de très bonne qualité, dont on reparlera. Anne Bernet, que vous connaissez. Anne Brassier, que vous connaissez aussi. Jérôme Brigadier, que vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez quand même. Pierre Chomeil. Il faudrait que je fasse venir un jour Pierre Chomeil. Il est passionnant, il a plein de choses à raconter. Il faudrait qu'il nous parle un jour de son Auvergne. C'est un Auvergnat pur jus. Il est en Auvergne en ce moment d'ailleurs. Un nouveau collaborateur qui s'appelle Jiménez de Cisneros. C'est pas mal ce qu'il fait. Il fait une revue de presse qui est assez au rasoir. Elle n'est pas du tout rasoir, elle est au rasoir. Elle est fort intelligente. Jean-Pierre Cohen, que vous connaissez, qui fait une rubrique finement intitulée « Cohenerie ». Joseph Grec, qui est un fou total, je tiens à le dire, et c'est probablement un des écrivains, je sais pas comment il faut dire, qui me fait le plus rire. Il a une rubrique qui s'appelle Sous mon béret. Le père Guimari, qui est un nouveau venu dans le monde de la presse, il fait ses débuts. Jean-Marc Laureau, qui est dessinateur. Le professeur Lugan, qui fait un papier passionnant. Nathalie Manceau, qu'on connaît, qui est un journaliste de présent, qui est une critique d'art, fort appréciée, ben oui. Pierre Monnier, avec l'auteur des Grandes Têtes Molles et des Pendules à l'heure.
Qui commence une série
qui va décoiffer pas mal. Walden. Alors Walden, c'est un nouveau, et c'est le professeur Lugan qui l'a découvert. C'est un tout jeune garçon qui fait de la critique littéraire et c'est, je trouve, remarquable. Il a fait un papier très 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 bien sur le joli livre d'Antoine Blondin qui vient d'être publié sous le titre que je m'en vais vous donner tout de suite dès que je l'aurai retrouvé, mais ça risque de prendre quelques temps parce que le journal est tellement gros qu'il faut trouver la bonne page, qui s'appelle « Un malin plaisir ». Jean-Cyle de Ventavon, que vous connaissez tous, qui est écrivain et historien, et qui reprend, on peut dire, une chronique qu'il avait déjà dans le temps et qui s'appelle un jour d'histoire ou quelque chose comme ça. C'est ça, un jour, voilà. Et puis ADG qui publie également sa rubrique habituelle. Donc il est là, je l'ai sous les yeux et alors, je disais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, puis Rodin, bien sûr, on l'a oublié.
Oh, oui.
Le dessinateur Rodin.
La honte.
Je disais qu'il y a une chose qui est très amusante, c'est que ce journal, l'idée en est venue au monde, au début du mois de février. Hein. Mm-hmm. Elle a été lancée à ce moment un peu plus tard, février, mars, on est le 21 avril. Donc on peut dire qu'on a eu du temps pour le préparer, quand même 2 mois et demi,
oui,
mois et 3 semaines. Et ben on a travaillé toute la nuit là pour le sortir.
Voilà une nouvelle qui n'étonnera pas grand monde.
C'est intéressant, hein. Alors je sais pas si ça vous intéresse, mais je voudrais quand même vous raconter une chose, c'est comment ce journal est né financièrement. Parce que Il y a une légende, une tradition, un principe, un impératif catégorique dans l'histoire de la presse. On dit maintenant, vous pouvez pas faire un journal si vous n'avez pas au moins... alors là, les sommes varient, si vous n'avez pas au moins 200 millions, 500 millions, 1 milliard de centimes, bien entendu. Mais nous, on a commencé avec exactement 0 francs et 0 centimes. Mais là, c'est vrai. Enfin non, j'exagère. On a commencé avec 2000 francs, parce qu'il a fallu créer ce qu'on appelle une SARL de presse. Au capital de 2000 francs, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de quoi acheter trois marqueurs, et une fois créé cette SARL de presse, eh bien, on a posté 3000 lettres, à peu près, et on a distribué à peu près 3000 tracts, 3-4000 tracts, dans diverses réunions, dans divers mauvais lieux, fréquentés par des gens qui fréquentent ces mauvais lieux, en disant, voilà, si vous voulez, si vous vous intéressez à notre projet de... décadère, c'est-à-dire de journal paraissant tous les 10 jours, de civilisation française et de tradition catholique, eh bien, vous pouvez vous abonner pour 499 francs.
50 ?
Non, pas 50, 99 francs. C'était un gag, c'était un clin d'œil parce que... Qu'est-ce que j'ai 400... Oui, 490, pardon. C'était un clin d'œil au prix d'Arty. Vous savez, vous pouvez toujours acheter un téléviseur pour 5 990 francs, c'est jamais 6 000. Donc là, on avait fait la même chose, mais pour rire. Bon, évidemment, c'était pas dans l'espoir de tromper le lecteur, pour qu'il dise « Ah là là, c'est formidablement moins cher que si c'était 500 francs, donc je vais me précipiter. » Non. Bon. Donc, on a fait cette proposition, et on a eu, et c'est quand même extraordinaire, parce que c'est un... Je sais pas comment il faut prendre ce résultat. Moi, je le trouve stupéfiant. On a obtenu 600 réponses. Exactement aujourd'hui, 595, très très précisément. Il y a 595 personnes qui ont acheté chat en poche, en quelque sorte, qui ont dit, bon, ben, on va envoyer 500 francs, et puis on verra bien ce que ça donnera. Il y en a qui ont envoyé plus, d'ailleurs. Il y en a qui ont envoyé un petit peu moins parce qu'ils peuvent pas, toujours avec des mots très gentils, etc. Et avec ces... ça a rapporté à peu près 250 000 francs. Avec ces 250 000 francs, on a de quoi publier le journal pendant 3 mois, puisque tout le monde est parfaitement bénévole, et que les seuls frais sont les frais de fabrication du journal, c'est-à-dire de l'achat du papier et de l'imprimerie. Et puis, pendant ces 3 mois, il faut qu'on trouve des abonnés. Le niveau de survie du journal, c'est 5 000 abonnés. Si on a 5 000 abonnés, c'est une réussite. Si on en a 4 000, c'est pas une réussite, mais enfin, on peut arriver à le faire. Si on en a moins, eh bien, c'est pas viable. Je crois que c'est une expérience intéressante parce que j'ai pas souvenir qu'elle ait été tentée, même quand, enfin, en dehors de présent. Il y a l'expérience, le préalable, le présent, qui avait fait ça. mais autrement, j'ai pas souvenir qu'elle ait été tentée, puisque quand Jean-François Devet avait lancé Minute, il avait agi d'une façon différente. Jean-François Devet était un grand journaliste parisien. Il avait beaucoup, beaucoup de relations mondaines. Et donc, il s'était adressé à chacune de ses relations en disant « Donne-moi 10 000 francs ». À l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'était en 62, ça représentait une forte somme. « Donne-moi 10 000 francs et je vais faire un journal. Et puis ensuite, tu seras actionnaire de journal. » Alors, c'était très rigolo parce qu'il y avait comme actionnaire du journal... des gens dont on s'étonnerait aujourd'hui de savoir qu'ils étaient actionnaires de Minute à l'époque. Il y avait par exemple Juliette Gréco, qui est quand même pas typiquement d'extrême droite, faut bien dire, qui était une actionnaire de Minute. Il y avait Fernand Reynaud, il y avait enfin des gens comme ça, des gens de ce genre. Et avec l'argent qu'il a rassemblé de cette façon, il a pu créer le journal. Alors nous, on a fait un petit peu la même chose. Sauf qu'on peut pas dire qu'on est vraiment...
Vous n'avez pas demandé quand même.
Soulevé... D'abord, on n'a pas demandé 10 000 francs et on n'a pas soulevé l'enthousiasme dans le tout Paris de la Jet Set. J'ai cherché, on n'a pas vu de chèque de Madame Juliette Gréco. Elle est toujours vivante, Juliette Gréco.
Elle a pas su,
peut-être. Voilà. Alors, c'était pour vous dire. Voilà comment ça s'est passé. Moi, je crois que c'est une opération saine. Parce que toutes les autres méthodes de financement d'un journal sont à l'évidence des méthodes douteuses. On peut pas espérer faire un emprunt bancaire pour lancer un journal, puisque le patron du journal, ce sont pas les lecteurs, ce sont à ce moment-là les banquiers. On peut pas faire appel à la publicité, puisque à ce moment-là, le patron, c'est l'annonceur. On peut pas faire appel à l'aide de l'État, parce que c'est l'État qui, à ce moment-là, est le patron. On l'a bien vu, d'ailleurs, avec les aides à la presse qui sont modulées en fonction du bon plaisir du pouvoir. Je rappelle que l'aide à la presse quotidienne qui est due de droit à tous les journaux paraissant tous les jours a été refusée à présent sous un prétexte complètement bamberlificoté, sous prétexte qu'il sortait pas vraiment tous les jours, mais que bon, tout ça est dérisoire. Il est évident que présent est un quotidien et que comme tel, il avait droit à l'aide à la presse quotidienne. D'autant qu'il ne publie pas, il n'a pas de publicité.
Surtout qu'il est en kiosque maintenant.
Et qu'il est en kiosque. Donc. Alors, il faut arriver à trouver une méthode pour échapper à tous les lobbies, à tous les groupes de pression, à toutes les, à tous les rassemblements, à tous les groupements, à tous les groupes de pression. Moi, je crois que la seule solution, c'est la solution de la prise en main individuelle. C'est-à-dire que, vous savez, j'invente rien, il y a des gens qui ont fait ça, il y a des gens qui ont été persécutés avant nous, et ils le disent assez, on le sait, et qui ont trouvé un remède à leur persécution, en tout cas une réplique à leurs persécuteurs, dans le regroupement et l'autodéfense communautaire. Et qui ont des journaux communautaires, qui lisent la presse communautaire, qui se soutiennent, je vois pas pourquoi nous on ferait pas la même chose. Pourquoi les Français nationalistes et catholiques ne feraient pas la même chose et n'agiraient pas eux aussi de façon à défendre leur communauté, leur droit d'être ce qu'ils sont, leur tradition, leur enracinement, leur passé, leur survie intellectuelle, leur survie spirituelle, leur survie culturel, et je vois pas pourquoi on le ferait pas. Et je ne vois pas pourquoi on ne préférerait pas des journaux amis à des journaux ennemis. Moi, je dois dire que je suis toujours un petit peu frappé, comme Roger Hollande, par exemple, qui fait souvent allusion, par le fait que certains journaux, qui sont des journaux violemment hostiles à nos idées, je parle pas... En ce moment, je suis pas en train de parler du Front National, je parle des idées de la droite nationale catholique, ou catholique, disons chrétienne, pour élargir encore un peu le créneau, et bien des journaux qui sont violemment hostiles sont la lecture quotidienne de gens qui sont des membres de cette grande famille. Alors, qu'on s'y réfère par curiosité ou par nécessité professionnelle, je veux bien, mais qu'on s'y réfère comme le parangon des vérités établies, c'est une autre paire de manches. Quand vous avez des gens, je veux dire des dirigeants, des cadres du Front National qui vous disent « j'ai lu dans Libération telle chose », sous-entendu donc c'est vrai, c'est absolument révoltant, je trouve, je l'ai déjà dit et je le répète. Parallèlement, il ne citerait jamais ni Présent, ni les autres journaux de notre famille. Et moi, je trouve que il faut en finir avec cette attitude. Et que si la droite nationale catholique veut être respectée dans ce pays, il faut qu'elle se fasse respecter en se regroupant et en se communautarisant.
C'est un joli mot.
C'est un joli mot.
Oui, oui.
C'est bien, je réessaye.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire qu'on nous a enfermés dans un ghetto, pour être clair. Eh bien, puisqu'on est dans le ghetto, faisons ce qu'on fait dans un ghetto. C'est-à-dire, on agit comme une communauté unie, solide et solidaire. Ok ?
Oui, oui.
Ok, tiens, je vais recevoir encore une lettre.
Ça y est, boum, 200 appels.
Oh là 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 là. Non, parce qu'il y a nos amis de l'Association pour la défense de langue française qui vont finir par venir me passer la boule à zéro. Je pense qu'il n'y a plus que ça à faire. Il faut me tondre maintenant.
Entre
j'ai couché
nous,
avec la langue anglaise.
Ce serait bien parce qu'il faudrait un peu, là, oui, que vous fassiez raccourcir.
Ça intéresse nos lecteurs. Alors, tout ça pour vous dire, tout ce long préalable, pour vous dire que si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore vous abonner, bien sûr, au Libre Journal de la France courtoise, car c'est le titre. C'est un joli titre, hein ?
Moi aussi, je trouve ça très bien.
Vous pouvez encore vous abonner, mais il y a une chose que vous ne pouvez plus faire, c'est vous abonner pour 490 francs. Parce que maintenant, nous avons arraché notre masque, et l'abonnement de souscription, en quelque sorte, eh bien, il est plus valable, puisque le journal existe. Il est vivant, il est sous nos yeux. Donc maintenant, c'est même pas 590 francs. C'est carrément 600 francs, on a tapé...
600 francs ?
Vous savez ce que ça coûte de faire un journal ?
Oh, c'est énorme la différence.
C'est énorme. Vous vous rendez compte, 600 francs, ça représente...
De 400 à 600, de comme 4... n'hésitez rien.
Non, de 490 à 600.
Ah, 90.
Alors, oui, vous avez vu, voilà, c'est ça. C'est Darty. Finalement, l'astuce d'artiste, ça marche pas mal. Mais je vous ferai remarquer la chose suivante. 600 francs, c'est 6 places de cinématographe, à peu près. C'est 30 paquets de cigarettes de luxe, ou 60 paquets de cigarettes de pauvre, c'est-à-dire la consommation de Philippe pendant un mois. Oui, fumez des cigarettes de pauvre ou des cigarettes de riche, vous, Philippe ? 10 francs, ben voilà, c'est ça, un mois. Fumez bien 2 paquets par jour. Un paquet par jour, bon, c'est bien.
François Donc 2 mois,
ouais, 2 mois, 2 mois de cigarettes, c'est 30 petits déjeuners, enfin café croissant au bistrot. Vous me direz qu'effectivement, quand on a lu un journal...
Vous pouvez pas prendre votre petit déjeuner chez vous. Hein ?
Non, mais pour les gens qui prennent le... Voilà. Et alors, donc, pour 50 francs par mois, c'est ça l'histoire. Hein, ça revient à 50 francs par mois, c'est vrai ce que dit Philippe au fond. C'est-à-dire 25 centimes par jour. C'est ça, non ?
Très bien, hein, 5 fois 12.
Non, 200, 2 francs 50 par jour. Par jour ouvrable. Vous avez, alors je vais vous dire ce que vous avez. Vous avez quand même un éditorial qui est... Je dirais pas qu'il est remarquable, mais enfin, il est quand même assez proche de quelque chose de pas trop mal.
Avec ensuite, des jolies lettres.
Ah, d'abord, c'est très joli comme impression, il faut dire. Moi, je fais ma publicité moi-même, parce que si non, j'attends mais... que les autres la fassent, j'ai aucun espoir. Donc, il y a un éditorial, il y a un papier politique d'une remarquable acuité.
Hein. Signé, c'est S2B.
Oui. Il y a une chronique de Jean-Pierre Cohen... qui, je l'ai dit déjà, moi j'adore ce titre, c'est quand même gonflé de faire ça, hein. Intitulé sa chronique Cohenry, Cohen, vraiment, il est prêt à tout. Il y a donc une revue de presse, qui est un bon moment d'intelligence, il y a la chronique d'ADG, dans ce numéro, là, il y a un entretien courtois avec Dominique Jamais. Vous savez qui est Dominique Jamais?
C'était je l'ai beaucoup vu chez grand journaliste. Moi, c'est ce qu'il fallait pas dire.
Ben si, pourquoi? Mais il est allé partout, il est pas... C'est un homme libre, jamais. La preuve, c'est qu'il va chez Pollack, mais il répond aussi aux questions du Libre Journal. Et il dit des choses qui sont quand même pas piquées des hannetons. Je vais vous donner un tout petit aperçu de son interview. Vous voulez bien? Écoutez bien ce qu'il dit. Je lui pose la question, à propos de l'expérience qu'il a eue dans en fréquentant les milieux politiques et administratifs. Expérience qui a été rendue nécessaire par le fait que journaliste qu'il était, il est devenu le patron du projet, enfin du chantier de la grande bibliothèque. C'est François Mitterrand qui lui a donné cette fonction en lui disant, voilà, vous êtes un homme de culture et vous allez donc prendre en main ce projet, ce chantier, et le diriger. Alors, il a donc été amené dans cette fonction à fréquenter le monde politique et la haute administration. Alors je lui pose la question, fort de cette expérience et de cette exploration, que pensez-vous du mépris croissant que les Français professent pour le monde politique et même pour la haute administration ? Alors qu'est-ce qu'il répond ? Normalement, la langue de bois, c'est de dire « Oh, mais vous savez, non, pas du tout, les politiques et les fonctionnaires ou fonctionnaires sont des hommes parfaitement rigoureux, ils sont très calomniés d'une façon honteuse, il faut pas adopter une position poujadiste, etc. etc. » Alors, Dominique Jamais, il dit pas ça du tout. Il répond la chose suivante, écoutez bien, c'est quand même incroyable. Le milieu politique et la haute administration ressemblent très largement à l'image que l'opinion en a. Ni le sens de l'État, ni celui du service public ne constituent, à de notables exceptions près, le souci principal d'un univers gangrené par l'ambition, le carriérisme, la cupidité, les intérêts personnels ou de clan. Ça décoiffe pas mal quand même un haut responsable, parce que c'est un haut responsable de l'État qui tient ce genre de propos, c'est pas très courant. Le reste de l'interview est à l'avenant, comme disait Molière. Dans Médecin Malgré... Non, dans... je sais plus. Bref. Alors, voilà. Si vous voulez vous abonner, pour en finir, vous envoyez 600 francs si vous voulez vous abonner pendant un an. Mais si vous ne voulez vous abonner que pendant 6 mois, c'est 350 francs. Et si vous voulez faire un essai de 3 mois, c'est 200 francs. Je dirais même mieux, si vous envoyez 50 francs, eh bien, on vous enverra un exemplaire pour que vous puissiez, ou même deux exemplaires, trois. Non, non, on fera pas ça.
Si, peut-être quand même. L'administration enfin, proteste oui, l'administration... derrière la vitre.
Enfin, voilà.
Comme je l'ai compris.
L'adresse, c'est SDB, ça n'a pas changé, 68 rue David d'Angers, 75 019 Paris. Je précise que c'est une adresse postale. Il n'y a pas de bureau, y a, c'est une adresse postale. Les bureaux sont ailleurs. Hein?
Avez-vous pensé demander à un auditeur à faire appel pour le lancement de votre journal à M. Jacques Toubon? N'avez-vous pas pensé à ça?
Ben non, parce que j'ai commencé à faire du journalisme avant que M. Jacques Toubon commence à faire de la culture. Et comme on a une très très bonne correctrice, remarquable correctrice, je dois dire, que je salue et que je remercie. J'ai pas eu besoin de faire appel à Monsieur Toubon pour la correction des preuves. Vous savez que Monsieur Toubon est un expert en orthographe. Vous connaissez pas l'histoire?
Oh, l'histoire monstrueuse. Oh, racontez-la à Londres au cas où on ne l'aurait pas entendu. Elle est sublime.
Libération publie un article intitulé à la une, Monsieur Toubon interpellé. Et ils écrivent, interpellé, P-E-2-L-E. Et il y a un petit papier vachard dans, je crois, le Quotidien de Paris.
Non.
Dans quoi?
C'est dans Libération, non?
Non.
Ah non, c'est
Libération
qui publie. C'est Libération qui est citée, oui.
Et il y a un petit papier vachard, je sais plus où exactement, mais enfin, peu importe, disant, eh ben, c'est bravo pour la première interview du ministre de la Culture. Non, c'est dans le Canard Enchaîné.
Le Canard Enchaîné
publie un petit papier vachard disant, bravo pour le ministre de la Culture pour sa première interview. Il y a une énorme faute d'orthographe française à la une de Libération, puisque interpellé, comme la prononciation l'indique, ça s'écrit I-N-T-E-R-P-E-L-E. Et Toubon se précipite sur sa plume pour avoir l'air futé et dit « Cher canard, j'avais moi-même remarqué cette faute, elle ne m'avait pas échappé, et patin, et couffin ». Il explique que lui, vif comme l'argent, il avait compris qu'il y avait une erreur, etc. C'était un manque de chance. Il se trouve qu'il n'y a pas d'erreur parce que le mot « interpellé », il suffit d'ouvrir n'importe quel dictionnaire pour le vérifier. S'écrit inter-P-E-2-L-E. C'est une exception à la règle de prononciation, bien qu'il y ait deux L.
Élève tout bon.
Pelé, non pas pelé.
Élève
alors tout bon pour avoir fait le malin.
Vous me conjuguerez à tous les temps, tous les modes, le verbe consulter le dictionnaire.
C'est pas une affaire grave. C'est pas grave du tout que cette erreur a été commise, puisque de toute façon, elle n'est pas imputable à tout bon. C'est pas lui qui a écrit le papier de Libération, c'est une interview.
Mais
il a abondé dans le sens en disant « mais j'avais vu la faute ».
Elle se continue avec Pivot. J'ai entendu raconter ça ce matin. Et alors, c'est son attaché de cabinet qui lui dit que bon, il va pouvoir briller chez Pivot. Et il le dit, oui, ils ont fait une faute d'orthographe dans mon article. Et Pivot ne dit rien, parce qu'il est poli.
Mais c'est comme lui. C'est lui qui organise les championnats du monde d'orthographe.
Oh, il est fort en orthographe, voilà. Sûrement, Pivot, bah. Donc il devait savoir. Parce que j'ai eu cette... dans ces dictées que je fais toujours, il y a eu interpellé.
Alors, je voudrais maintenant saluer un journal qu'on a présenté aussi à ce micro, et qui m'avait enthousiasmé, et dont j'attendais le meilleur, et c'est en train de se faire, ça s'appelle « Village ». C'est le numéro 2 qui vient de paraître, avec des articles consacrés aux pigeonniers, aux bouilleurs ambulants, d'un métier, bouilleur ambulant, bouilleur de crue. Un article sur Monsieur Bonte, Pierre Bonte. Un dossier sur le permis de construire, des articles sur le bricolage, etc. Et trois portraits de village. L'Esquin, dans les Hautes-Pyrénées, rien à voir avec Arnaud. Saint-Médard, dans la Loire. Et Souliers dans les Hautes-Alpes. Et alors, le numéro est magnifique, comme le premier, moins échevelé, hein, ouais. Mieux rangé, etc.
Luxueux.
Luxueux, des beaux papiers, belles couleurs. Là, on sent que c'est des gens, c'est
ils
un
groupe
de presse.
Ils sont pas partis avec 3 francs 50.
Ils sont pas partis avec 3 francs 50, ça c'est certain. Mais c'est littéralement bondé de petites informations amusantes, de petits tuyaux, de... sur les expositions de peinture, sur des papiers intelligents, par exemple, un papier qui explique qu'il faudrait peut-être arrêter de dire des cohéneries sur la disparition de la forêt en France. Parce que cette forêt n'a jamais cessé de s'accroître grâce à une politique de reboisement rondement menée, etc. Bon, plein de petits articles comme ça. Alors, Village Magazine, il y a un édito qui ne parle pas de nous, bien qu'on ait, je pense, largement concouru à ce qu'il évoque, puisque l'édito du directeur de Village explique que dans les jours qui ont suivi l'apparition du numéro 1 de Village, ils ont été submergés de lettres et d'appels téléphoniques. Je pense que ça n'est pas totalement étranger à l'interview que nous avons faite du directeur dans notre libre journal du mercredi. Qu'est-ce que vous cherchez? Oui, en plus, ils choisissent bien leur dessinateur. Il y a un dessin de conque. Alors, ce soir, j'ai dit que nous recevions, d'une part, le docteur Dor. Ensuite, vous allez rire, parce que c'est la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je finis par plus savoir comment on rit, j'ai inauguré l'émission de Cécilia Dem, c'est la semaine dernière, consacrée à l'art floral. Et aujourd'hui, on va pas faire une émission consacrée à ça, mais je reçois Madame Sophie Argouache, qui représente l'association France Point de Croix. France Point de Croix, qu'est-ce que c'est? C'est une association de dames, et même peut-être de messieurs, qui font de la broderie au Point de Croix. Alors vous allez dire, c'est Nunuchard, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui va nous raser avec ces... Eh bien, c'est pas Nunuchard du tout, parce que, comme toutes ces activités très très typées, très particulières, ça suscite une véritable passion. Et alors j'ai vu Alors, je vais encore me faire attraper. Le livre de presse, j'allais dire le presse-book, je me suis retenu. Le livre de presse de l'association, c'est stupéfiant, ça fait 600 pages. Il y a des photos, des centaines de photos, des choses magnifiques. On fait des très belles choses. Alors, on en parlera tout à l'heure avec Sophie Argouache, dont l'association est placée sous cette devise qui est ô combien vraie. Je ne connais rien de plus agréable qu'une passion partagée. Ensuite, on recevra, alors là, je ne sais pas comment ça va se passer, on va voir. On va voir si on est entre gens de bonne compagnie. On recevra André Berkoff. Je pense que pour André Berkoff, je suis à peu près tout ce qu'il déteste. Oui, j'imagine, et je suis pas loin de penser qu'André Berkoff représente à peu près tout ce que je déteste. Alors, on va voir ce que ça va donner. On va voir, hein, on va essayer. C'est un type intelligent, ce que j'aime bien chez lui, mais espèce de côté politique mondain, comme ça, branché. Enfin, on va voir, on va l'interroger, parce qu'il a une émission qui est sur France 3 à 13h30, et qui est quand même une émission assez surprenante. Ça s'appelle « Français si vous parliez ». Et c'est l'idée de Berkoff, c'est donc 4 fois la semaine, il reçoit des invités, il donne un sujet de débat, et c'est des invités tous azimuts qui s'expriment. Et je crois que j'ai l'impression que la sélection des invités est faite d'une façon honnête.
Oui, moi j'ai écouté quelques fois, j'ai pris des petits morceaux.
Alors on va voir, j'attends André Berkoff pour la deuxième partie de l'émission, et puis on recevra ensuite... Comment? Non, pas par téléphone, il va venir. Ah, Marc Dem, bien sûr, il y aura Marc Dem. Bien sûr, il y aura Marc Dem. Et puis, pour finir, nous aurons Monsieur Raffard de Brienne, Daniel Raffard de Brienne, qui viendra nous faire des révélations sur un grand secret historique qui n'avait jamais apparemment été dévoilé avant qu'il ne le fît. C'est le rôle des loges dans la préparation des cahiers de doléances et des états généraux. Je suis un petit peu fatigué quand même. Alors voilà, c'est le programme de ce soir. Donc maintenant vous le connaissez, on va commencer avec le docteur Dor, mais le programme de ce soir vous le connaissez. S'il ne vous intéresse pas, vous avez évidemment la ressource de prendre un bon livre. Et là, on parle suffisamment de livres dans cette émission pour que vous ayez un choix fort élargi. Je voudrais, avant de donner la parole au docteur Dor, vous lire une dépêche que j'ai volée à Victoria, parce qu'elle me paraît, cette dépêche, très 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 riche d'enseignements sur la société dans laquelle on vit. Voilà. Ça s'intitule, c'est une dépêche AFP, ça s'intitule « Le jeune voleur de voiture d'Ampuy a été tué par une seule balle ». Lyon, 21 avril, AFP. L'autopsie du corps du jeune voleur de voiture, mortellement blessé lundi soir à Ampuy, Rhône, par le tir d'un gendarme, a montré que la victime avait été atteinte par un seul projectile, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires. Michel Cos, 26 ans, avait été atteint vers 20h d'une balle de 9 mm dans la poitrine, alors que la voiture volée, une 605, à bord de laquelle il se trouvait avec deux complices, fonçait sur le gendarme. Contrairement aux premières informations, il n'a pas été établi si Michel Cos était le conducteur ou le passager de la voiture. Alors, on peut faire une petite halte. Je dirais que quand il y a trois personnes dans une voiture volée qui tentent d'écraser un gendarme, personnellement, ça me paraît pas absolument indispensable de tenter d'établir si quelqu'un est le conducteur ou pas. Vous voyez, je comprends assez le gendarme qui dégaine et qui tire en se disant il faut arrêter cette voiture par tous les moyens. Mais j'ai pas le temps de demander les papiers aux gens, demander le permis de conduire pour être sûr que celui sur lequel je vais tirer est bien le conducteur. Enfin, c'est quelque chose comme ça que j'imagine.
Il a tiré dans les pneus de toute
voilà,
façon.
Voilà, il a dû tirer dans les pneus. Et comme il tire pas très bien, peut-être. Le gendarme a fait usage de son arme, un Beretta 12 coups en état de légitime défense. Selon les premières conclusions de l'enquête ouverte par la section de recherche de la gendarmerie, a-t-on précisé de même source. Le gendarme tentait de bloquer, écoutez bien, c'est intéressant, sur un parking d'Ampuy, le véhicule du trio, qui je rappelle était un véhicule volé, c'était une 605 volée. Le véhicule du trio, surpris en train de voler une autre voiture. Vous voyez, il a tiré 7 coups, mais la douille de la seule balle qui a atteint Michel Cos n'avait pas encore été retrouvée mercredi après-midi dans la carcasse de la 605. Alors, ça, c'est vraiment la preuve que les journalistes disent absolument n'importe quoi, parce que je vois pas au nom de quoi une balle tirée de l'extérieur pourrait avoir une douille dans la voiture. Vous savez ce que c'est qu'une douille ?
Oui, oui,
bon,
oui, oui.
C'est le culot de la balle, et c'est ce qui part à l'extérieur, enfin, c'est ce qui sort de l'arme une fois que c'est éjecté de l'arme quand le coup a été tiré. Je vois pas pourquoi on va la chercher, cette douille, dans la 605. À mon avis, ils la trouveront jamais dans la 605. Ils peuvent la trouver sur le parking, mais pas dans la 605. Voilà. En tout cas, cette voiture, la 605, a été découverte le soir même dans la... Écoutez bien, moi je trouve ça absolument fascinant. Dans la commune proche d'Andrézieux, Loire, calcinée et la carrosserie totalement détruite à coups de pioche et de barre à mine, apparemment afin de dissimuler les impacts de balles, a-t-on ajouté de sources judiciaires. Les deux complices, toujours recherchés, avaient déposé leur compagnon agonisant chez ses parents, des gens du voyage sédentarisés qui vivent dans une caravane à Givors-Rhône. Ça veut dire que ces gars avaient volé une voiture. Ils vont sur un parking pour voler une deuxième voiture. Ils voient arriver les gendarmes. Qu'est-ce qu'ils font ? Sans une hésitation, ils foncent sur le gendarme pour l'écraser. Le gendarme tire. Leur copain est blessé, gravement. Ils vont le déposer chez ses parents. Ensuite, ils reprennent la voiture. Et avec une froideur incroyable, enfin c'est vraiment ce sont des gens glacés. Ils vont dans la forêt, détruisent systématiquement la voiture à coups de barre de fer pour essayer de dissimuler que c'est la voiture en question, et ils mettent le feu à la carcasse alors que leur copain est en train de crever. Mais c'est incroyable, je trouve. C'est une attitude de tueur glacé. La suite. Les parents ont transporté leur fils à l'hôpital de la ville, mais dès son décès intervenu vers 21h, ils ont récupéré son corps pour le veiller parmi les leurs, selon la tradition. Alors, je vais vous dire une chose. Si un jour, par malheur, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est victime d'une affaire de ce genre, qui reçoit une balle tirée par la police, essayez d'aller récupérer à l'hôpital. Vous allez voir comment vous allez être reçu. Et d'ailleurs, le procureur de la République de Lyon a dû parlementer longuement, en pleine nuit, dans le campement familial, pour que la dépouille soit remise à la justice aux fins d'autopsie. Les parents de Michel Cos ont fini par accepter, contre la promesse qu'on leur retourne le corps du fils le lendemain, une information judiciaire devrait être ouverte dans les prochains jours. Autrement dit, on est dans un pays où un type qui est tué dans une bataille à feu ouvert avec la gendarmerie, est enlevé de l'hôpital où il a trouvé la mort, où il est mort, ramené dans le campement familial par ses parents, et le procureur de la République doit parlementer longuement pour obtenir l'application de la loi qui est la saisie du corps aux fins d'autopsie pour l'enquête. Ça se passe en France en 1993.
C'est le haut Moyen-Âge.
Quelle est ta loi? Je pense, non, au Moyen-Âge, c'était un peu pire.
On demandait aux gens avant de les juger quelle est ta loi. Et on les jugeait selon leur loi, voilà. Parce que tout le monde n'avait pas la même. Bon.
Mais enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que si on rapproche cette information d'une autre information qui apparemment n'a rien à voir, et qui est l'existence d'une circulaire distribuée aux employés de la RATP chargés des contrôles de billets dans le métro, qui leur dit, si vous demandez un billet à un jeune et qui refuse de vous le montrer, n'insistez pas. Si moi on me demande le billet et que je refuse de le montrer, je prends une contravention immédiatement. Mais si c'est un jeune, vous voyez ce que je veux dire, un jeune, avec des guillemets, eh bien on n'insiste pas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est à peu près certain de se prendre une patate. Et que les employés de la RATP sont pas payés pour ça. Mais ça veut dire qu'il y a une loi, qui est une loi écrite, qui est bonne pour vous, ma chère Victoria, pour moi, c'est-à-dire pour le bon couillon de contribuable qui se la ferme et qui respecte la loi. Mais pour les autres, c'est la loi de la jungle. C'est l'affaire de la petite fille de Mitterrand qui se promène avec ses gardes du corps, parce qu'elle a des gardes du corps, bien entendu, qui se promène dans la rue, dans le village de la ville de où habite son père, je crois que c'est Gilbert, et qui passe devant une salle de jeu où il y a des jeunes qui sont en train de jouer, et les jeunes, voyant les gardes du corps de la petite fille, repèrent, parce qu'ils ont l'œil américain, à la coupe de cheveux et à la tenue civile des deux gars en question, que ce sont des gendarmes. Et ils vont se jeter sur ces gendarmes à 15, ils vont en envoyer un à l'hôpital avec la poitrine enfoncée et un bras cassé, et ils vont quand même, parce que les gendarmes sont, ces gendarmes-là, qui sont des gars du GIGN, sont pas absolument manchots, les jeunes en question vont quand même laisser 5 gars sur le carreau qui vont être transportés eux aussi à l'hôpital. Donc à 2 contre 15, les gendarmes du GIGN ont eu un blessé et ils ont amoché 5 jeunes, ce que je trouve plutôt sympathique. Mais le fait est que c'est un système, on vit dans une société où le sentiment de l'impunité dans ces catégories sociales est devenu tel qu'on considère comme un jeu supplémentaire, c'est-à-dire au lieu d'aller jouer une partie de jeux vidéo ou de flipper, on va se payer du flic ou du gendarme. C'est intéressant. Et alors après, le procureur de la République est probablement obligé de parlementer longuement avec les familles pour récupérer les délinquants. Voilà, c'était ce que je voulais vous raconter. Ça me paraît un bon témoignage de notre système social. Alors, il y a un autre bon témoignage de notre système social, mais là, je crois que ça va tout à fait dans le bon sens, docteur Dor. C'est cette, semble-t-il, très forte, de plus en plus forte mobilisation de toutes sortes d'associations en faveur de la vie, en faveur de la vie de l'enfant à naître.
Je dois dire, la nomination de Simone Veil a fait l'effet d'une provocation. On en parlera peut-être plus tard, mais...
On peut en parler tout de suite.
On peut en parler tout de suite, si vous voulez, bien sûr. Mais franchement, on a l'impression de quelqu'un qui revient sur les lieux du crime. Elle a... la loi Veil, n'est-ce pas? Il est bien entendu que quand nous parlons de Madame Veil, de la loi Veil, nous ne l'attaquons pas en tant que personne elle-même, enfin, en tant que... nous la jugeons pas, mais évidemment nous jugeons ce qu'elle représente. N'est-ce pas? Et la loi Veil, pour la première fois dans l'histoire de France, a introduit le droit au crime. Car la loi Veil, c'est pas autre chose, le droit au crime. Et contre qui, tout le monde le sait évidemment, c'est contre les plus petits, les plus faibles, et ceux qui devraient nous être les plus chers, c'est-à-dire nos propres enfants. Et je ne sais pas si je vous ai raconté, mais il se trouve qu'en 84, je crois que j'avais pris la plume, j'avais écrit à Madame Veil, et je lui avais dit, Madame, comment se fait-il que sortant d'un holocauste, vous en fassiez un autre? Et elle m'avait répondu, Monsieur, certainement votre... vos paroles, enfin votre écriture dépasse votre pensée. Et je peux vous dire, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que, enfin, je me souviens pas exactement des termes, mais elle disait, ça c'était fort juste, n'est-ce pas? Elle disait que elle ne portait pas la seule responsabilité, puisqu'il y avait un gouvernement, il y avait un président de la République, il y avait une chambre, et que donc sa loi était tout à fait régulière. Et ça, hélas, elle avait tout à fait raison.
Oui, c'est un argument qui se tient. Il y avait même plus qu'un gouvernement, enfin un président de la République, un premier ministre, un gouvernement et une majorité parlementaire. Il y avait une opinion publique.
Enfin, qui avait été façonnée.
Ben voilà, c'est ce que j'attendais que vous disiez.
Bien entendu.
C'est que l'opinion publique, on le sait très bien, elle est manipulable à merci, et qu'on peut absolument lui faire penser ce qu'on veut. On le voit bien aujourd'hui avec notamment l'affaire de Yougoslavie. La vérité, il faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est que les Français ne savent à peine où est la Yougoslavie. Ils le savent. Quelques-uns le savent parce qu'ils y sont allés en vacances. Mais si on leur présentait un Serbe, un Croate, ils seraient bien incapables de faire la différence. Moi, tout le premier. Et dans cette affaire, l'information qu'il leur est donnée est une information totalement manipulée, totalement mensongère. Et d'ailleurs, quand on l'observe avec un peu d'attention, totalement aberrante, ça n'empêche pas que si on fait un sondage aujourd'hui, ce qui se fait d'ailleurs à la télévision de temps en temps par des, non pas des sondages, mais enfin des interviews dans la rue, des entretiens surprises dans la rue, on voit bien que les gens tiennent des propos échevelés sur cette question. On voit des femmes qui disent « Mais moi, je serais tout à fait d'accord pour que mon mari aille se battre là-bas, parce que ce qui se passe est horrible. » Autrement dit, sous prétexte qu'il se passe des abominations, il faudrait ajouter d'autres abominations pour essayer de les résoudre. Tout ça parce que la plupart du temps, enfin dans ce cas-là précisément, et dans le cas de l'avortement aussi, l'opinion publique a été préparée, modelée par un matraquage médiatique infernal.
Enfin, la loi Veil, on peut penser, n'est-ce pas? Finalement, on peut estimer qu'elle a fait 7 millions de morts. Alors franchement, enfin, c'est l'horreur. Et alors, on a cette surprise qu'elle a trois ministères, non seulement la santé, mais encore, elle ajoute deux ministères, plus un ministère d'État, que quand le Conseil des ministres se réunit, elle est à la droite du président de la République, on a l'impression qu'elle est honorée, qu'elle est... Et alors, une surprise de taille que j'ai aussi ce matin, un ami m'a envoyé un article tiré de la Croix du 1er avril, et un article, je dirais plutôt élogieux sur Madame Veil, qui ne dit pas un mot sur l'avortement, qui parle d'elle en prima donna inter pares, en latin donc, bon, et qui parle de haute figure morale, de grande figure morale, franchement dans la Croix. Là, vraiment, je trouve que c'est une tristesse, parce que voir dans un journal dit catholique, voir l'éloge, enfin tout au moins une espèce d'honneur rendu à cette femme qui est quand même là, qui a quand même donné son nom à une loi qui a tué tant, qui n'a jamais un tel massacre n'a été commis dans notre histoire, et lui donner ses distinctions, franchement là, ou c'est la révolte, ou c'est une tristesse profonde. Un journal dit catholique.
Moi, je pense que cette affaire, cette nomination de Simone Veil à un poste aussi considérable, en tout cas en apparence, dans son importance politique, son importance pratique et son importance, comment dirais-je, non pas diplomatique, mais protocolaire, relève de la sidération. C'est-à-dire qu'il s'agit, en fait, de frapper tellement fort que personne n'osera rien dire.
Probablement. Moi, je vois ça de la même façon, effectivement. Et, comment dire, je voudrais, à ce propos, ça ne va pas nous éloigner, au contraire. Il se trouve que j'ai rencontré M. Balladur à deux reprises. La dernière fois, c'était sur le marché duplex, puisqu'il se trouve qu'il est de ma circonscription. Et il était là, donc il faisait les marchés, et moi j'étais là aussi, et je n'ai pas bonne vue, mais je le vois donc de très près. Je saute sur lui, je lui dis « Monsieur Balladur, Vous... Il y a 1000 morts par jour. Que faites-vous pour l'avortement ? Alors, il se retourne vers moi. Il me dit, mais monsieur, j'ai 4 enfants. Alors, monsieur Balladur, je vous ai posé la même question il y a 5 ans, puisqu'il se présente tous les 5 ans comme le député. Vous m'avez fait la même réponse, j'ai 4 enfants. Mais la vérité, une vérité qui, ceci veut dire, proprement, on peut l'interpréter comme ça, que s'il a 4 enfants, c'est qu'il n'est pas pour l'avortement. Mais si donc la vérité est bonne pour lui, comment ne serait-elle pas bonne pour les autres? Et alors là, à ce moment-là, je dirais, ça commençait un peu à se gâter, il y avait quand même un petit peu de monde autour de nous, il y avait une certaine équipe qui l'entourait, bon, et il a jugé bon, à sa place peut-être j'aurais fait pareil. Mais c'est pour dire que finalement, il illustre, il est catholique, je crois. Il illustre.
Oui, il est catholique. Il est catholique. Il était d'ailleurs à la messe de Pâques.
À la messe, très bien. Et ça, c'est pas moi qui vais lui reprocher ça, bien
non,
au contraire.
Non, pas du tout.
Bien au contraire. Mais je dirais, je pense que c'est un catholique libéral. Tout au moins, il se comporte de la même façon. Et là, je trouve qu'il y a une antinomie, une césure, je ne sais pas comment dire, une schizophrénie entre ce que sont les convictions et ce que finalement leur application qu'on leur donne. C'est trop facile. Il y a une espèce de dédoublement, n'est-ce pas? Le catholicisme libéral, c'est le mariage entre la révolution et la révélation, n'est-ce pas? Catholique veut dire universel et libéral veut dire il n'y a pas trop de vérité, donc on va être assez souple pour ça, c'est la tolérance. Donc je dirais le catholicisme libéral est à la lettre une contradiction. Catholique veut dire universel, et libéral veut dire qu'il n'a rien d'universel, on l'en fait selon son gré. Donc, je dirais, il y a... C'est la séparation de l'Église et de l'État, ce sont les idées de l'amener, n'est-ce pas? Or, là, je voudrais citer le... Je trouve que ça éclaire remarquablement le sujet. C'est ce que disait le père Hasman, qui est recteur de la basilique de Montmartre, à propos des rapports de l'Église et de l'État. Il disait avec beaucoup de justesse et de finesse que la politique est à César, mais que tout est à Dieu, même César. Et alors, on pourrait croire que ça ne concerne que la politique. Après tout, le médecin qui fait l'avortement, par exemple, n'est pas, il pourrait considérer, après tout, comme M. Balladur, que lui-même n'est pas pour l'avortement, mais comme il est médecin et médecin dans l'hôpital public, il est bien forcé de faire ce qu'on lui demande, sinon, évidemment, il risquerait de ne plus occuper sa place. Donc là, il y a une espèce de divorce, n'est-ce pas? Cette séparation de l'Église et de l'État, c'est finalement la séparation du corps et de l'âme, c'est presque une mort, et cette... évidemment, qui frappe chacun de nous, n'est-ce pas, à un degré divers, mais surtout ceux qui sont évidemment exposés à avoir un pouvoir quelconque, n'est-ce pas. Et c'est une espèce de schizophrénie, de dédoublement. L'homme perd son unité. À force de dissocier ses convictions de ce qui est pratiqué finalement, eh bien, il devient une espèce de, je ne sais pas, d'homme dans une lune. En tout cas,
c'est un homme qui a deux... forcément, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que...
C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Vous imaginez un Premier ministre, alors je ne sais pas si c'est le cas de M. Balladur, ça ne regarde après tout que lui, mais un Premier ministre, si M. Balladur va communier le dimanche, le dimanche il communie, et le lundi il dirige un gouvernement qui autorise, qui rend possible, il dirige un État qui rend possible... 1000 exécutions par jour, 1000 assassinats d'enfants par jour. Bon, il peut pas dire qu'il n'est pas responsable, puisqu'il est le responsable du gouvernement. Donc il est porteur, là, d'une faute, à l'évidence. Et je dirais qu'il est dans une situation qui est archi-classique dans le système de ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire de la faute réitérée et relapse. Tout le temps, tous les jours, il recommence la même faute.
Et je dirais lui bien sûr,
fonctionnellement.
Mais aussi finalement moi je trouve aussi d'une certaine manière les gens peut-être ne l'ont pas fait toujours de façon consciente, mais dans le programme de l'UPF, pardon. Eh bien, il n'y avait pas un mot sur l'avortement. Alors vous me direz, je suis blanc comme neige, je n'ai rien promis, je ne tiens rien, mais les gens justement qui ont voté aurait dû s'informer. Et alors, je voudrais dire aussi, c'est ça, que, bien sûr, il n'est pas le seul responsable, et les Français le sont, nous le sommes tous, Et l'Église aussi. Moi, je pense à l'Église, la croix, je viens d'en parler, nos évêques, n'est-ce pas? Je connais un texte écrit par l'épiscopat qui est un texte remarquable sur l'avortement. Tout à fait remarquable. Oh, irréprochable. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher donc à ce texte? Eh bien, on peut le reprocher précisément, c'est qu'on n'en parle jamais.
Personne
n'est jamais cité. Il a cité, si, il a été cité quand même une fois parce que je l'ai vu. Il a été cité dans la vie de cette revue, bon. Et je l'admirais, mais presque en cachette, puisqu'il a paru, mais en fait, il devrait paraître 70 fois cette fois.
Alors, en revanche, il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est que des personnalités de l'Église, aussi différentes, mais je dirais en même temps aussi curieusement semblables, dans leur proximité à la vraie pauvreté, à la vraie misère, comme l'abbé Gilbert, le père Gilbert, qui est le curé des Loubards,
oui.
ou sœur cette religieuse albanaise,
Mère Teresa,
sont radicalement hostiles à l'avortement et le disent. Or, un des arguments en faveur de la libéralisation de l'avortement, c'est que c'est une porte de sortie laissée aux pauvres pour ne pas accroître encore leur état de misère. Et sœur Teresa dit exactement le contraire. Elle dit que même dans un pays dont on nous dit qu'il est menacé par la surabondance démographique, eh bien, elle reste, elle, rigoureusement hostile à l'avortement.
Alors là, monsieur Beckett, je voudrais vous citer, parce qu'au fond, c'est peut-être surtout la raison pour laquelle je suis venu. Je vous en avais déjà parlé un peu la dernière fois, mais pour moi, c'est une révélation. Je me suis souvent posé cette question, mais pourquoi vouloir tuer l'enfant? Pourquoi vouloir tuer un enfant? Est-ce que c'est vraiment pour les raisons qu'il nous donne? Et alors, j'ai eu la stupéfaction de lire, je l'ai dit à ce même micro, mais je crois qu'on ne le répétera jamais assez. L'avortement est un acte révolutionnaire. Et c'est la seule raison pour laquelle on le met en spectacle, on le met en exergue, enfin bref, on nous pousse à cet acte. Alors, je cite donc le texte, qui est un texte qui est apparu en juin 78 dans les dossiers de la du planning familial, juin 78, cité par l'AFS. Et c'est ceci. Nous militons pour la contraception et pour l'interruption volontaire de grossesse, ni par malthusianisme, tout à l'heure vous parliez de démographie, donc ni pour des raisons démographiques, ni pour améliorer l'état sanitaire. Or, la loi Veil avait été faite. Le grand prétexte de la loi Veil, ça avait été l'état sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se trinquent, qui font l'horreur, qui font des septicémies, qui font des tétanos post-abortum, parce qu'évidemment, ce n'est pas stérile, donc on va assister à cette personne en danger, on va leur porter secours. Après tout, on fait un crime, mais si on peut lui rendre service, enfin, ça avait été le prétexte de la loi Veil. Donc, je répète, nous militons pour la contraception, ni pour des raisons malthusiennes, ni pour améliorer l'état sanitaire, mais alors pourquoi? Alors c'est là que c'est incroyable. Pour changer les comportements traditionnels. On tue l'enfant pour libérer la femme. Parce que c'est dit un peu plus loin dans le texte. Pour libérer la femme. Et je voudrais dire à ce propos que tout le monde l'a deviné, c'est que on ne peut pas, une femme ne peut pas donner davantage à la révolution que de tuer son propre enfant. Elle ne peut pas contredire davantage l'ordre naturel et l'ordre surnaturel que de tuer son propre enfant. Elle ne peut pas faire plus. C'est une espèce de sacrifice offert sur le tribunal, enfin sur l'autel de la Révolution. Enfin, et ceci peut se rapprocher de ce que disait Lénine, lorsque pour toucher une population, une société, il faut toucher la femme, il faut pervertir la femme. La femme, c'est l'enfant. La femme, c'est la culture. La femme, c'est celle qui reste au foyer. La femme, c'est l'éducation. Donc, pervertissez la femme, vous pervertissez la société. L'avortement, c'est un acte de perversion. Donc, cet acte, il est au centre des ténèbres. Souvent, on pourrait croire, après tout, l'avortement, c'est un peu comme le reste, je ne sais pas moi, la porno, enfin évidemment c'est plus grave parce qu'il y a un crime, etc. Mais en fait, nous touchons au cœur même de la perversion. Et pardonnez-moi, au fond même, je dirais, du péché originel, rappelez-vous ce que disait le serpent à Ève, parce qu'il s'est adressé à Ève, il s'est pas adressé à Adam, pas bête, il s'est adressé à Ève, là encore comme Lénine, je dirais, et vous serez comme des dieux. La connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Donc on s'affranchit de toutes les lois, n'est-ce pas, et nous serons comme des dieux. Car c'est le grand problème finalement de la liberté. La liberté, vous serez libre, vous serez pleinement libre si vous faites à votre tête, n'est-ce pas? Et alors que la liberté suivant ce que nous croyons, c'est au contraire d'être dépendant, et d'être dépendant, il n'y a pas de liberté sans vérité. Et je dirais même qu'il n'y a pas que la vérité rend libre. La liberté, c'est l'aisance. Moi, je dis ça, je l'ai peut-être déjà dit ici, je ne sais plus. Mais je dis ça à mes étudiants en anatomie, n'est-ce pas? Si vous voulez être des bons anatomistes, si vous ne connaissez pas le cœur, si vous ne connaissez pas l'anatomie de la main, vous ne pourrez pas faire de chirurgie de la main. Je dirais, la liberté passe par la nécessité, elle passe par la vérité. C'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. La liberté, c'est de faire ce que l'on doit.
Oui, ce que vous dites à propos des jeunes anatomistes que vous formez, on peut le dire aussi à propos, par exemple, de l'aviation. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un système où on nous dit, mais n'importe qui a le droit de tout faire. Vous comprenez? De quel droit vous réservez-vous la possibilité de faire ça? Je dis du droit que, par exemple, à un commandant de bord de piloter un Boeing. Moi, j'ai peut-être la liberté de piloter un Boeing, mais j'ai pas la technique, je sais pas le faire. Et je pense que si on me met aux commandes d'un Boeing, personne ne voudra monter dans l'avion. D'abord, je serai incapable de le faire décoller. Donc, je peux avoir la liberté de le piloter. Et ça, moralement, effectivement, je suis libre. Mais dans la réalité, je ne peux pas le piloter.
C'est aussi simple que ça. Bien. C'est un exemple.
On a beaucoup d'appels. On a des appels qui sont de deux sortes. Il y a des appels qui montrent une certaine faveur à l'égard de votre combat, et il y a des appels qui montrent plutôt le contraire. Par exemple, un auditeur nous dit, mais que ferez-vous des malheureuses, et si vous, sous-entendu, si vous obtenez la suppression de la loi libéralisant l'avortement, que ferez-vous des malheureuses qui continueront à avorter, les mettrez-vous en prison?
Non, je crois que... c'est pas moi qui vais décider cette chose-là. En Pologne, ils ont une loi répressive, la femme n'est pas poursuivie, et c'est l'avorteur qui est poursuivi. Je crois qu'il risque 2 ans de prison. C'est l'avorteur, c'est pas la femme. La femme, je dirais, elle est déjà suffisamment pénalisée. Si vous me laissez le temps, je pourrais vous dire un tout petit mot sur la détresse de la femme. C'est un acte tellement terrible, tellement irrévocable pour une mère que tuer son enfant que elle a déjà presque sa punition avec elle. Mmh. Et là-dessus, nous avons, parce que nous luttons contre l'avortement depuis bientôt 6 ans et demi, nous avons des témoignages tout à fait remarquables là-dessus, n'est-ce pas?
Moi, je crois qu'il y a une autre réponse qu'on pourrait apporter, qui est une réponse assez classique, c'est-à-dire, mais la question est mal posée. La décision de consacrer une part du budget de la nation à libéraliser l'avortement et à le rembourser a été prise sans qu'aucune mesure préalable n'ait été décidée. Jamais aucun ministre de la Santé n'a dit on va mettre en place des structures sérieuses d'accueil de la femme enceinte en difficulté.
Parfaitement. C'est ça, c'est la prévention. Et il n'y a pas de prévention.
Alors ça, c'est abandonné à l'initiative privée. Là, j'ai un exemple de une association que je connais pas du tout, mais qui m'a envoyé son qui s'est présenté sous la forme d'un tract, qui est Formasève. C'est une association d'action sociale évangélique qui propose un stage du 8 au 9 mai 93 sur l'accompagnement de la femme enceinte en difficulté. Alors, je vous en donne le programme parce que ça me paraît résumer parfaitement le combat à mener. Ils nous disent « La question de l'avortement reste plus que jamais d'actualité, même si sa réglementation pourrait passer aujourd'hui pour une normalisation. Combien de femmes enceintes en difficulté devraient pouvoir rencontrer une écoute et un accompagnement chrétien alors qu'elles se retrouvent confrontées à des problèmes moraux, psychologiques et éthiques d'une si grande importance ? Que dit la Bible sur cette question ? Que faire ? Comment mettre en place une écoute pratique, une écoute téléphonique ? Comment et que répondre ? Tels seront quelques-uns des points abordés durant ce stage. » Alors, il y a le stage, c'est approche biblique et éthique de la maternité, l'aide sociale aux femmes enceintes, l'approche médicale, suivi psychologique et physiologique, l'écoute au téléphone, les femmes différentes et leurs relations avec leur enfant, vivre avec l'enfant différent, comment lancer et animer une équipe d'aide aux femmes enceintes en difficulté, etc., etc. Alors, on peut quand même se dire que le rôle d'un État organisateur, avant de dire « on va tuer 250 000 enfants par an », aurait été de
dire... Oh, c'est l'ordre de 400 000.
Vous dites 400 000.
Oh, c'est de l'ordre de 400 000, oui. Parce qu'il y en a 170 000 déclarés, mais c'est un peu comme le chômage. Hein. Ouais. Ils font des... Il y a un tas de curtages qui n'ont pas de... Vous savez qu'ils ont des limites, en principe, ils ne doivent pas dépasser un certain quota. Alors, quand ils dépassent le quota, ils ne déclarent pas tout. N'est-ce pas? Non, non, il y a des... On ne sait pas exactement le chiffre de 400 000. On peut le savoir de... Peut-être, enfin, c'est une estimation, n'est-ce pas? C'est considérable. C'est 1000 par jour, à peu près. Enfin, cet ordre-là.
Alors, en tout cas, il en reste...
Mais la prévention, bien entendu. Ça, je crois que c'est le... C'est même la grande... la grande politique qu'il faudrait mener. Mais la prévention, elle se fait à tous les niveaux. Elle se fait au niveau, je dirais, théologique même. Moi, personnellement, en politique, ce qui m'intéresse le plus, c'est le droit divin. À partir du moment où Dieu est admis dans la... on l'a dit tout à l'heure à propos de ce que disait le père Hasman, n'est-ce pas ? Si Dieu est dans les cœurs, eh bien, je dirais, il n'y a plus de question. Si Dieu est dans la cité, il n'y a plus de problème, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Alors, bien entendu, une politique d'écoute, d'accueil de la mère, de l'enfant, une politique familiale, un salaire familial. Je ne sais pas si ce gouvernement va dire l'installer. Il en a parlé un petit peu avant. Enfin, certains... M. Chirac en avait parlé à un moment. Je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là. Et puis, l'abrogation de ces lois, parce qu'il n'est pas question de... Mais la prévention, bien entendu. La prévention.
Alors, une auditrice nous dit, il faut rappeler que les francs-maçons se sont flattés d'avoir élaboré cette loi pour l'avortement dans les loges. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est
alors là, je voudrais dire un mot à ce sujet.
C'est une question,
oui,
à l'étude des loges qui avait été proposée par le docteur Simon.
Parfaitement. Alors là, justement, une chose que... j'ai connu un Allemand qui est mort maintenant, qui était un catholique rénan, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu dans la région de Moscou, je crois, c'est ce qu'il m'avait raconté. Et c'est un homme qui, je crois, était extrêmement connu dans tous les milieux, défendant la vie. Il allait en Amérique, au Canada, et en Allemagne, un peu partout. Bon. Et il avait dit ceci. Lui, allemand, ça m'avait intéressé. Il m'a dit, il y a trois dates de subversion. Lui qui passait son temps à lutter contre l'avortement. 1517, 1717, 1917. Alors, 1517, je me rappelais un peu, je me souviens, enfin, que 1517, les gens s'en souviennent probablement, c'est le moment où Luther a affiché à Wittenberg les 95 propositions contre les indulgences. Bon. Alors, vous me direz, c'est quand même chercher bien loin l'origine de toute cette subversion. Mais ça en était quand même l'origine, puisque, finalement, le protestantisme, c'était le refus du magistère. N'est-ce pas? Je le dis aux confrères chrétiens, parce que quelques-uns viennent avec nous, n'est-ce pas? Je le dis avec une certaine tristesse, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est le subjectivisme. Et au fond, Rousseau était protestant, n'est-ce pas? Kant aussi. Et quand il disait, Rousseau, conscience, conscience, n'est-ce pas? Donc on se fie plus à sa conscience qu'au magistère. Et ça, c'est un danger, évidemment. Donc ça, c'est le protestantisme. Alors 1717, ça, c'est une date qui n'est pas connue, qui n'est jamais connue. Évidemment, parce qu'il s'en cache. Eh bien, c'est Anderson. Anderson, c'est celui qui a fondé avec Desaguliers, qui était un prêtre calviniste qui venait de La Rochelle, réfugié de La Rochelle. Ils ont fondé les loges maçonniques à Londres. Et alors, nous avons la preuve absolue, je dirais, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, puisque le sénateur Caillavé, a dit il y a deux ou trois mois à la télévision, que, effectivement, on le pressait un peu, mais il a dit, ce sont dans les loges que sont concoctées les différentes transformations de la société, et ils en revendiquent au moins deux. Il y avait le RMI, mais il y en avait deux autres. Il y avait le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Donc, il n'y a plus de doute. si on lit les livres, comme vous le disiez, le livre de Pierre Simon, De la vie avant toute chose, il ne dit pas autre chose. Et il faut remarquer d'ailleurs ce titre incroyable, De la vie avant toute chose, il dit précisément le contraire dans son livre.
Ça, c'est le vieux
dans
système,
livre,
le vieux système diabolique.
C'est le mensonge, n'est-ce pas?
Il consiste à dire on va célébrer la vie alors que c'est un hymne à la mort.
Précisément le contraire. En fait, il célèbre pas la vie, il célèbre ce qu'il appelle, lui, la qualité de la vie. C'est-à-dire qu'on a droit à la vie que si on lui apporte une certaine qualité, que si, au fond, on se fait soi-même. Vous avez très bien compris que finalement, c'est l'homme qui se fait lui-même. C'est Dieu, finalement. C'est l'homme qui se fait Dieu. C'est toujours mes thèmes. Donc, je crois qu'on peut dire que, sans aucune hésitation possible, puisque c'est maintenant de notoriété publique, que cette loi est une loi maçonnique. Et en ce domaine, les francs-maçons sont les ennemis mortels.
Autre question. De combien de citoyens la population française a-t-elle été amputée depuis l'instauration de l'IVG? Vous nous avez répondu.
Ah, moi je pense 7 millions, oui. 7 millions. Écoutez, on peut faire un rapprochement avec les pertes américaines. En Amérique, la loi Roe contre Wade a démarré en 73. Depuis, ils ont eu 30 millions de morts. Faites à peu près le rapprochement, nous avons à peu près le quart des morts américains, des morts aux États-Unis. Le quart, ça doit faire à peu près, vous voyez, ils perdent environ 1 500 000, 1 600 000 par an, les Américains. Nous perdons de l'autre 400 000. Si vous faites le compte, ça fait à peu près 7 millions, à peu près 7 millions de morts. Alors évidemment, c'est pas 1 million près. Personne ne peut affirmer ça 1 million près. En plus ou en moins d'ailleurs. Hein.
Un auditeur nous dit d'ailleurs la première cause de mortalité de l'espèce humaine est l'avortement.
Ah, c'est l'avortement. Actuellement, on peut penser qu'il y a de l'ordre de 60 millions de morts par an. Alors le SIDA, je dirais, ce n'est rien à côté de ça. Le paludisme non plus, la lèpre, toutes ces grandes épidémies, les grandes pandémies ne sont rien à côté de cette espèce de terrorisme, n'est-ce pas? Alors justement, je termine avec mes dates, n'est-ce pas? 1917, oui. Alors les francs-maçons nous en ont parlé. Pardon, avant de quitter les francs-maçons, il faut quand même dire ceci, car ce sont eux, ils l'ont réclamé aussi. Puisqu'ils réclament la paternité de l'avortement, ils ont réclamé aussi la paternité de la Déclaration des droits de l'homme, dont tout le monde maintenant, je dirais, veut se réclamer, alors qu'il suffit de penser à l'article 6, nous en avons déjà parlé ici, où il est dit, n'est-ce pas, que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la leur à eux, n'est-ce pas, la volonté générale. Chacun sait que c'est là, que c'est celle des francs-maçons, puisque nous sommes en maçonnocratie, n'est-ce pas. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui l'ai dit, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en maçonnocratie. La déclaration, nous rejoignons là la paternité maçonnique, puisque ce sont eux qui sont aussi les pères de la déclaration des droits de l'homme de 89, et aussi de celle de 48 d'ailleurs. Alors, 1917...
Surtout de la déclaration d'indépendance, la constitution des États-Unis, qui est un chef-d'œuvre de...
Qui est un chef-d'œuvre
une planche tracée, caricaturale.
Alors, si je parle maintenant de 1917, c'est évidemment la révolution d'octobre. Alors, il n'est pas inintéressant de remarquer, à moins que je me trompe, mais il me semble bien que finalement, le premier droit à l'avortement a été donné par une féministe du nom d'Alexandra Kollontai, qui était la ministre de la Santé de Lénine, en 1920. Et on peut faire aussi un rapprochement un peu plus tard avec une Margaret Sanger, qui était une féministe, qui est à l'origine, qui a fondé le planning, et qui avait des rapports étroits avec l'hitlérisme. C'est assez curieux à constater. Je dirais un mot de l'écologie. Alors là, je vais peut-être faire bondir certains lecteurs, mais j'ai les textes. Je cite Cousteau, le commandant Cousteau. Vous verrez, on se dit, mais on rêve. Si j'arrive à lire, parce que... C'est terrible à dire, il prend ses précautions quand même, c'est terrible à dire, il faut que la population mondiale se stabilise, et pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. Qui dit ça? Le commandant Cousteau. J'en ai pas spécialement contre Cousteau, croyez-moi, je suis avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il nous raconte. Mais quand on entend des choses semblables, je dirais que Cousteau est semblable, mais ce sont des irresponsables.
C'est bien la preuve quand même que cette société intellectuelle, cette société, pas au sens d'une société physique, mais enfin cette société de pensée, qui règne à l'heure actuelle,
est en pleine folie.
À l'heure actuelle sur les médias
est
cul par-dessus tête, parce que
le
commandant Cousteau, qui est capable de nous attendrir aux larmes pendant 2 heures sur la mort d'un dauphin, avec toutes les images possibles et imaginables, et tous les commentaires et tous les accompagnements musicaux, dit froidement, enfin froidement, non pas froidement, parce qu'il dit c'est terrible. Mais enfin, il dit voilà, il faut tuer,
il faudrait
éliminer.
Il faudrait
éliminer 350 000 êtres humains par jour. Il faut pas tuer un dauphin, parce que évidemment les dauphins c'est très très gentil. Mais tu es 350 000 bébés.
Avec les écolos, c'est la nature qui devient Dieu.
Ouais.
N'est-ce pas? C'est qu'il y a toujours, quand Dieu n'est pas là, il y a toujours une substitution. N'est-ce pas? Et c'est toujours d'ailleurs contre l'homme. Ça, on peut le remarquer. Je voudrais dire un mot sur le comité d'éthique, si vous me laissez, et ensuite, un témoignage qui me paraît intéressant. Si vous m'en donnez le temps. Je ne sais pas
oui,
si.
Oui, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Attendez, si vous me permettez avant, je voudrais donner la parole à une auditrice qui nous dit « Si vous continuez à faire des émissions contre l'avortement, je ne donnerai plus ma cotisation, je vous demande de prévenir Monsieur Ferré. » Alors voilà, Monsieur Ferré est prévenu que si on fait des émissions contre l'avortement, cette dame ne versera plus sa cotisation.
J'aimerais bien rencontrer cette dame.
Non, moi ça m'intéresserait vraiment pas beaucoup parce que c'est pas un argument. Je veux dire, on peut présenter des arguments... On peut discuter sur cette question, on peut débattre du bien fondé, du recours à l'avortement, dans certains cas, etc. etc. Mais si on me dit, si vous continuez à faire des émissions contre, je vous donne plus de 200 francs par an, je vous dis, madame, écoutez, je veux bien même vous envoyer 200 francs par an pour que vous écoutiez une autre radio où on célébrera les mérites de l'avortement. Si c'est ça que vous attendez d'une radio, ça doit exister, à mon avis.
Alors, je demande à cette dame instamment de ne pas quitter le micro. Enfin, après, elle pourra peut-être le quitter, mais qu'elle m'entende jusqu'à la fin. Parce que j'ai quelque chose à dire qui concerne une femme, justement. Mais avant ça, je voudrais dire un tout petit mot des comités d'éthique. Les comités d'éthique, 37 membres, fondés en 83, 6 membres nommés par le président de la République, dont le président du comité, qui a été Jean Bernard, qui est maintenant, comment s'appelle-t-il, Changeux. Donc 6 membres, 12 membres nommés par les ministères, c'est-à-dire à la botte du gouvernement. Alors, donc, faisons les comptes, 18 qui ont une nomination politique sur 37 membres, et les autres membres, une quinzaine, je crois, nommés par des conseils tels que, enfin, des grands organismes comme l'INRA, comme le Collège de France, comme, enfin, j'en passe, des meilleurs, et puis aussi alors, des instances politiques comme l'Assemblée nationale, le Sénat, et je crois le Conseil d'État, je crois quelque chose comme ça. Bon, moralité, c'est un comité qui est évidemment à la botte du gouvernement. Et c'est une chose, là encore, tellement triste, à savoir que, comment dire, que Dieu soit éliminé de la politique, c'est une tristesse, je dirais, inimaginable, mais quand César se met à faire de la morale ou se substitue à Dieu, là, c'est proprement intolérable. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais citer deux choses à propos des comités d'éthique, car il se trouve que je les connais bien. Le professeur Beaulieu, qui est donc le promoteur du RU486, la pilule abortive, disait que le marché pouvait concerner 1 milliard de femmes. 1 milliard de femmes, faites le compte, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 milliards d'enfants. N'est-ce pas? Puisque les femmes, surtout dans le tiers-monde, peuvent avoir pas mal de progéniture. Et froidement, il envisage l'extinction, enfin le... Et d'ailleurs, il n'envisage pas toutes les malformations qui pourraient survenir, parce que les femmes, surtout en Afrique ou ailleurs, ne sont pas toujours bien informées. Vous savez qu'actuellement, les femmes qui prennent le RU486 signent une décharge, comme quoi si le moyen chimique ne marchait pas, elles s'engagent de façon formelle, n'est-ce pas, à pratiquer un avortement par les moyens mécaniques. C'est donc qu'ils craignent une malformation. Et effectivement, il y en a eu, puisqu'une femme sur laquelle la chose est arrivée, à Clamart, qui était le haut lieu de l'avortement, eh bien, ils ont eu un enfant qui avait une simélie, c'est-à-dire un enfant qui a eu les jambes soudées entre elles, une malformation. Donc, imaginez un instant la perspective du professeur Beaulieu, un milliard de femmes qui prend la pilule, toute cette holocauste, enfin, ce massacre que jamais un esprit humain un peu sain avait envisagé, n'est-ce pas? Et sans compter donc aussi des malformations, enfin, un monde incroyable. Et alors là-dessus, vous me direz, mais heureusement, nous avons le comité d'éthique qui lui a statué en décembre 87, pardon. 3 ans après, alors ils avaient été consultés sur la pilule, sur le bien fondé de la pilule, et sur l'avortement, et ils avaient répondu, eh bien, qu'après tout, elle pouvait être utilisée dans la mesure où la loi autorisait l'avortement, ou la loi de l'État autorisait l'avortement. Donc, un feu vert à la pilule. Alors, tous ces sages, que sont-ils au juste, n'est-ce pas? On parle de sages immenses, n'est-ce pas? On leur fait constamment des louanges, ils ne sont jamais trop hauts. Là, pour moi, ce sont des pauvres fous. Je suis médecin moi-même, il y a beaucoup de médecins dans le groupe. Je voudrais aussi signaler une chose qui est d'ailleurs assez triste. J'ai assisté à ces réunions de comité d'éthique. Il y avait là un père jésuite qui était donc délégué par le comité, enfin par la confédération épiscopale, à titre d'observateur, je veux bien, mais enfin, je crois qu'il participait au vote aussi. Eh bien, vous n'imaginez pas, je dirais, l'ambiance, c'est-à-dire que l'ambiance est très feutrée, et alors on se tourne vers le père Vespier, n'est-ce pas mon père? Qu'en pensez-vous mon père? On lui fait une cour effrénée, pour mieux laisser passer le poisson, n'est-ce pas? On lui dort la pilule, et lui, le pauvre, je ne sais pas s'il y voit que du feu, mais enfin, le spectacle est extrêmement triste. J'en ai fini un peu pour le comité d'éthique pour dire, ça avait été dit très bien par Claire Fontana, qui disait finalement ce crime est un crime d'État. Car l'État, c'est lui qui a lancé la loi, comme chacun sait. C'est lui qui rembourse le crime, et je voudrais dire à ce propos-là que ce sont donc les socialistes qui ont dit le crime, on peut pas le réserver à quelques-uns, on va le répartir. Car c'est un peu la spécialité des socialistes de répartir tout, n'est-ce pas, y compris la misère et même le crime, n'est-ce pas? Et sinon, ils sont pas contents. Répartir à mort, si on peut. Un crime d'État, pourquoi? Parce que nous le savons bien, les hôpitaux font environ 70% de... assurent, je crois que j'ai fait un compte, à moins que je me sois trompé, sur les chiffres qui nous sont donnés, il y a 66% des avortements qui sont assurés par les hôpitaux publics. Sur les 170 morts avouées, il y a 66%. Donc, je dirais, l'État est lui-même engagé, puisque il commandite le crime. En plus, il a des participations à Roussel-Uclas, donc directement. Il est impliqué directement, il nous fait payer un impôt pour entretenir le crime. Le crime est d'État. Les nazis, finalement, soutenaient un État, sans trop le savoir d'ailleurs, parce qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas qu'on liquidait massivement dans les camps de concentration. Actuellement, tout le monde sait qu'on liquide massivement nos enfants, personne ne bronche, et je dirais quelquefois avec des larmes, et parfois même pas l'Église.
Alors beaucoup d'appels là pour le coup, très 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 séparés, des constatations qui sont parfois surprenantes ou qui ouvrent la porte à une certaine méditation. Par exemple, un auditeur nous dit avant il y avait la sélection naturelle, maintenant il y a les lois sur l'avortement. Est-ce qu'on peut pas penser que d'une certaine manière l'espèce humaine est en train de supplanter l'élimination naturelle d'une partie de ces enfants qui se produisaient dans le temps par la maladie, par la non-viabilité, et que cette élimination naturelle a été réduite, voire dans certains cas pratiquement supprimée par les progrès de la médecine. Et donc, est-ce qu'on peut pas penser que l'espèce humaine est en train de supplanter cette élimination naturelle par une élimination chimique et physique? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une espèce d'instinct profond de l'espèce humaine qui fait qu'elle ne veut pas se reproduire à un rythme trop rapide?
En France, je dirais, on ferme nos avons des friches, on vous rembourse pour les friches. On a tué 7 millions d'enfants. Jamais nous aurions nos friches si on avait pu accueillir ces 7 millions d'enfants. Je dirais, la France manque d'enfants. Elle a 56 millions d'habitants. Mais nous manquons d'enfants, cruellement d'enfants. On en manque tellement cruellement qu'on en va en chercher au Bangladesh, qu'on va en chercher au Salvador. Moi, j'ai pris l'avion. Ça m'est arrivé. J'étais en Colombie, tout ça. Je voyais des petits garçons que des Françaises venaient chercher pour. On tue nos enfants. On peut pas les adopter. Oui. C'est une politique. Je dirais, on marche cul par-dessus tête, n'est-ce pas? Et le mensonge par-dessus le marché, n'est-ce pas?
Alors, à ce propos, une auditrice nous dit « Les 7 millions d'enfants tués par l'avortement ont été remplacés par 7 millions d'immigrés. » C'est une façon de voir les choses.
Ah, c'est aussi... Mais bien sûr, si nous avions eu nos 7 millions d'enfants, on n'aurait pas eu nos 7 millions d'immigrés. J'en suis à peu près certain.
Un autre avis qui nous arrive par photocopieur, télécopieur, un auditeur, il me semble que c'est un auditeur, nous dit... je ne partage pas vos valeurs, mais je respecte votre combat. Néanmoins, je souhaiterais que vous ayez l'honnêteté intellectuelle de rappeler que les régimes de Hitler et Ceausescu, comme aujourd'hui le régime islamique iranien, interdisaient aux femmes d'avorter sous peine de sanctions sévères. Oui, c'est parfaitement vrai. Je veux dire d'ailleurs que c'est un argument tout à fait solide et intéressant. Par exemple, il est vrai que le régime de Hitler et le régime de Ceausescu et le régime islamique iranien aujourd'hui interdisent formellement les attaques de banque, par exemple, le hold-up, ou le viol des femmes. Alors, donc, au nom du fait que Hitler, Ceausescu et les ayatollahs interdisent l'avortement, on devrait l'autoriser, et au nom du fait que Hitler, Ceausescu et les ayatollahs interdisent les attaques de banque, on devrait pouvoir en France attaquer les banques, parce que c'est une méthode,
c'est une méthode dangereuse, c'est très dangereux d'attaquer les banques.
Mais oui, mais c'est un acte de liberté, vous comprenez.
Mais c'est un acte de liberté, parfaitement. Bon. Et alors, moi, je propose même à ce monsieur, s'il a un peu d'acquaintance dans le gouvernement, on pourrait autoriser le hold-up et puis ensuite le rembourser s'il y a des frais.
Alors, un auditeur, qui apparemment ne sait pas qu'il écoute Radio Courtoisie, téléphone en disant « Le fou furieux que vous avez invité, sait-il qu'au Front National, on est aussi pour l'avortement ?»
Oui, hélas. Hélas. Alors là...
Je voudrais, si vous vous permettez un mot.
Bien sûr.
Je rappelle pour la 800e fois, peut-être en 5 ans, que cette émission du mercredi soir n'est pas une émission officielle du Front National. C'est pas le Front National qui s'exprime par ma voix. Celui qui parle en ce moment, c'est Serge Debeketch, qui n'est pas militant du Front National. Je l'ai dit 7000 fois et je veux bien le répéter autant qu'on voudra. Donc, ce que je dis à ce micro et les invités que je reçois à ce micro n'engagent absolument personne d'autre que moi-même. C'est-à-dire pas plus le Front National que le RPR, l'UDF, le Parti communiste ou le Parti socialiste, et je ne demande pas à mes invités d'adhérer aux positions de tel ou tel parti. Pour ma part, je considère, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, et je l'ai même dit au président Le Pen, que l'attitude du Front National à l'égard de la question de l'avortement n'est pas suffisamment franche et tranchée. Le Front National devrait dire une fois pour toutes, si nous arrivons au pouvoir, nous prendrons des mesures. Premièrement, pour prévenir l'avortement, toutes les mesures possibles, le salaire maternel, l'aide aux mères en difficulté, solitaires, la politique d'adoption, etc. Et une fois que nous aurons réalisé tout ça, nous interdirons l'avortement parce que c'est un assassinat, parce que c'est indéfendable moralement.
Bien.
Politiquement, religieusement, sur tous les points.
Une
voilà.
Lettre.
Alors, un auditeur nous dit, je suis résolument contre l'avortement, mais je vous déclare que vous en faites trop et que cela va nous amener à prendre le parti des avorteurs. Alors franchement, ça c'est une attitude intellectuelle que je comprends pas parce que...
Oui, j'ai du mal aussi à comprendre.
Bon voilà, il est contre l'avortement, mais quand on est aussi contre, il prend le parti de ceux qui sont pour. Je suppose ce monsieur, je soupçonne ce monsieur d'être ce qu'on appelle un libéral. C'est-à-dire, un libéral, c'est quelqu'un qui croit que ses adversaires ont raison. Une auditrice nous dit puisque cette dame ne veut plus cotiser à Radio Courtoisie, eh ben je cotiserai à sa place.
Ah oh, monsieur, monsieur
c'est très très bien. Alors, que pensez-vous des salauds et des inconscients qui ont mis des femmes enceintes sans l'accord de ces dernières?
Ah, c'est le viol, vous voulez dire.
Voilà. Je pense que moi personnellement, je pense qu'il faut tuer les violeurs.
Ah bon.
Faut les tuer, tout simplement.
Pardonnez-moi,
appliquer la peine de mort.
Je crois que je n'ajouterais pas un crime à un autre, je dirais. Mais...
Non, c'est pas un crime. La peine de mort n'est pas un crime. C'est la défense de la société.
C'est assez vrai.
C'est pour ça que quand on met en parallèle l'avortement et la peine de mort, je suis toujours révolté parce que entre un enfant qui n'a fait de mal à personne, qui est l'incarnation même de l'innocence, et un type comme ce Van Coppenole, qui a violé 3 enfants et qui en a assassiné un, je vois vraiment pas quel point commun il y a. Van Coppenole, c'est même pas la peine de perdre son temps à lui faire un procès qui va durer 10 ans. Ou 5 ans, et de l'envoyer en prison pour 20 ans, il sortira dans 10 ans, et il recommencera, puisqu'il est déjà allé en prison pour des faits parallèles, qu'il est ressorti et qu'il a recommencé. Donc on sait que c'est un être asocial, il faut donc le chasser de la société. On n'est pas forcé de le faire avec un grand appareil de démonstration, on n'est pas forcé de faire une exécution en place publique, mais c'est quelqu'un qu'il faut écarter de la société. Et il faut que les violeurs sachent que la sanction de leur acte, qui est l'acte le plus abject qu'un homme puisse commettre, c'est la mort, voilà. Donc je pense que les salauds et les inconscients qui mettent des femmes enceintes, il faut les tuer. C'est pas une raison
c'est
pour tuer
un
bébé.
Peu fort,
oui, enfin, mais enfin, non, mais c'est bon, mon enfin, opinion, vous
oui,
pouvez
oui,
avoir une
opinion oui, oui. Mais enfin, en tout cas, protéger le petit qui lui n'a rien demandé. N'est-ce pas? Et on peut très bien l'adopter si la mère n'en veut pas. Et après tout, lui, vraiment, est absolument innocent du crime de son père, enfin.
À propos de Cousteau, une auditrice nous rappelle une phrase très très forte qu'il avait dite aussi, je me souviens, c'était « Les ennemis, ce sont les berceaux ».
Ah ben ça, oui. Ah bon? Ah,
c'est une phrase intéressante.
Les ennemis sont les berceaux. Mais les écolos sont les drôles de... drôles de zigotons. Je voudrais... dire encore une petite chose, peut-être.
Attends, genre, un mot encore. Si monsieur de Wickedge continue à faire des émissions sur l'avortement, et si monsieur Jean Ferré continue à faire des émissions sur l'avortement, je double ma cotisation.
Oh. Eh bien, merci à ce... merci à cet auditeur.
Il y a beaucoup de questions, docteur Dor, sur ce problème, effectivement, qui est pas négligeable. Que pensez-vous de la prolifération humaine dans les pays sous-développés, où les enfants sont des morts-vivants à leur naissance? Une auditrice nous dit, quand on voit en Afrique des enfants mourir de faim, c'est épouvantable, il faut trouver une solution, il faut trouver des moyens d'empêcher les femmes de mettre au monde des enfants en surnombre, et elle ajoute, je suis catholique. Alors, quelle est votre position?
Oui, alors là, je lui répondrai, il se trouve, c'est assez curieux, je suis pédiatre, hein, j'étais... Actuellement, je fais autre chose, mais je m'occupe d'embryons, d'œufs de poule. Bon. Mais j'ai été 6 ans pédiatre en Afrique noire. J'ai donc vu les enfants, et les femmes, c'était mes clients. Je les voyais et je peux vous assurer qu'elles n'avaient pas trop d'enfants parce qu'il y avait une mortalité effroyable. Moi, dans mon service de l'hôpital central d'Abidjan, j'avais environ 20% de morts. Alors vous me direz, mais vous êtes un médecin horrible. Je regrette d'avoir parfait toujours ce que j'aurais dû, mais c'était en fait très difficile. Mais ils arrivaient très souvent mourants. Très souvent mourant. Vous savez, en saison des pluies, par exemple, avec des pistes impraticables, ils arrivent avec 8 jours de retard, ou 5 jours de retard, ou 3 jours quand il y a une diarrhée épouvantable. Et, enfin, je donnerai un exemple. Tenez, pour moi, je vais dire la chose parce que je crois qu'elle est intéressante. Pour moi, le sous-développement vient de l'ignorance. Et je vais en donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'avortement, mais qui est, je trouve, très intéressant. J'avais un jour une petite fille devant moi, mignonne, une petite fille de elle avait quel âge? Elle avait 3 ans, je crois. Elle était assise devant moi et elle était toute nue, comme c'est pratique de voir les enfants, évidemment. Sa maman était derrière et elle n'arrivait pas à ouvrir les yeux. Et alors, je pose quelques questions à la maman et finalement elle me dit qu'elle a eu la rougeole il y avait quelque temps. Et alors, elle fermait les yeux, je voulais vous savoir qu'il en était. Alors j'ouvre un œil et je vois que l'œil était vide. Son œil avait fondu. Vraiment, cette pauvre petite, je me dis, heureusement, il y a l'œil gauche. Je soulève l'autre œil, le cristallin me tombe dans la main. C'est vous dire que cette pauvre femme, elle a dû certainement aller voir le sorcier pour commencer. Elle habitait la brousse, très probablement, je ne me souviens plus très bien des circonstances. Mais le sorcier lui a donné on appelle ça un nyama-nyama, n'est-ce pas, là-bas, c'est-à-dire un peu une espèce de crotte, je ne sais pas quoi. Alors ça a plutôt envenimé les choses, l'œil s'est enflammé, il y a eu donc une conjonctivite, une kératite, une fonte purulente de l'œil, enfin, un truc horrible. Et donc cette petite fille est aveugle, ça s'est passé en 65 à peu près, donc faites le compte, elle aurait maintenant plus de 30 ans, je la vois à un marché tenant la main d'un autre et tout ça. Enfin, j'imagine qu'elle peut être comme ça parce que j'ai envoyé des aveugles au marché. Et donc c'est un drame. Et alors, voilà, simplement pour dire que cette femme, avec le prix qu'elle aurait payé pour acheter un collyre avec des antibiotiques, elle aurait mis quelques gouttes trois fois par jour, l'enfant regardait ses yeux. Donc là, je dirais, c'est absolument certain, pour moi en tout cas, que, cela n'a pas été dit seulement par moi bien sûr, que le sous-développement vient de l'ignorance.
Docteur, on va faire une pause, et puis ensuite, si vous voulez, vous resterez encore 5 minutes avec nous pour répondre aux dernières questions.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 21 avril 1993, diffusé dimanche 22 février 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec le docteur Dor. Bon, il y a vraiment beaucoup de questions et je regrette de dire qu'il y a trop de questions pour que je puisse toutes les poser et que je puisse toutes pour que nous puissions apporter à toutes une réponse. Mais je donne des avis qui nous sont adressés. En Afrique, nous dit notre Idriss, la polygamie est la cause de la démographie galopante. Une autre auditrice nous dit, vous devez rappeler que le Front National propose l'allocation à la mère de famille, ce qui est vrai évidemment, et elle nous dit, M. Le Pen a déclaré récemment sur RTL que l'avortement était un assassinat. Un auditeur demande si on peut préciser quelle est l'indication thérapeutique qui permet l'avortement. Est-ce que vous pouvez le faire rapidement, docteur ? L'indication thérapeutique.
De l'avortement ?
Oui.
Ah mais, je dirais, on ne peut pas employer le mot thérapeutique pour l'avortement, puisque un traitement, c'est fait pour soigner, pour guérir, enfin, quand on peut, évidemment, pas toujours, mais ce n'est pas fait pour tuer. Donc, on ne peut pas parler de thérapeutique et d'avortement. Ce n'est pas... on ne peut pas tuer, guérir en tuant, c'est le comble.
L'avortement assure aux hommes une entière liberté, nous dit une auditrice. Dans ces conditions-là, ils n'ont même pas besoin d'aller jusqu'au viol, il faut le dire. Un auditeur dit que si les parents des savants qui travaillent à faciliter l'avortement avaient eux-mêmes eu accès à ces moyens, eh bien, le problème ne se poserait pas. Ce qui est effectivement... Bon. Le nombre des naissances est stabilisé, nous dit un auditeur depuis 68, aux alentours de 750 000, et il n'y a pas du tout 300 000 avortements par an, ce chiffre est faux.
Oh, 400 000.
400 000.
Je pense 400 000.
L'auditeur qui nous rappelait que Hitler, Ceausescu et les ayatollahs sont contre l'avortement nous prie de faire savoir quand même que c'était simplement une façon pour lui de relativiser nos arguments tendant à assimiler l'avortement à l'hitlérisme ou l'avortement au communisme. Il dit « Je suis évidemment opposé au viol et au hold-up », mais ça on l'avait compris, ma réaction était une petite plaisanterie paradoxale. À propos du RU 486, nous dit un auditeur, le 21 mars 91 à l'hôpital de Lens dans le Pas-de-Calais, une femme est morte. Le RU 486 oui. Lui était déconseillé puisqu'elle était tabagique et avait eu 5 enfants.
Oui.
Un auditeur rappelle que la loi juive interdit l'avortement, ce que disait le professeur Lejeune récemment dans un entretien avec François Foucard sur France Inter. Il rappelait qu'il avait eu une conversation avec un rabbin qui... lui disait qu'il avait exactement la même position que lui sur cette question. Et cet auditeur nous dit « La loi juive n'autorise l'avortement que lorsque la vie de la mère est en danger. » C'est peut-être à cette indication thérapeutique que faisait allusion notre auditeur de tout à l'heure.
Oui, je crois que... Enfin, je rappellerai la position de Pidouze à ce sujet qui est très claire. Quand il faut choisir entre la mère et l'enfant, eh bien, on choisit la mère et l'enfant. En fait, on ne choisit pas.
Alors, pour terminer, vous voulez encore nous dire quelque chose,
oui,
docteur?
Oui, un mot seulement. Je ne veux pas abuser, bien sûr.
Lire un appel d'auditrice, et puis voilà. Mais je vous laisse la parole.
Juste un tout petit mot sur la détresse de la femme. Je me souviens de cette interview d'une femme qui était
Madame Peters, qui est une médecin, bon, et on lui avait demandé, elle était dans une circonstance assez particulière, elle était à Rome, et il y avait autour d'elle des cardinaux. Et un cardinal lui a posé la question, madame, est-ce que toutes les femmes, après un avortement, ont une détresse? Alors, elle a répondu ceci, toutes, mais pas au même moment. Il se pourrait qu'une femme qui vient de faire un avortement est relativement soulagée de ce qu'elle vient de faire, mais ce sont les morts, ça sera peut-être pas pareil. Qui peut dire, juste? Alors, je vais vous lire cette réflexion. Je voudrais vous donner une... Alors, raconter une histoire très, très brièvement. Elle m'est arrivée et je la trouve intéressante. C'était le 19 octobre 1991 et nous étions sur le parvis des droits de l'homme. Comme je n'aime pas les droits de l'homme, à cause de l'article 3 et l'article 6 notamment, puisque les droits de l'homme excluent les droits de Dieu, j'avais apporté une croix, et une grande croix, qui est plus grande que celle humaine, et sur le linteau, j'avais marqué le SOS tout petit, j'avais marqué le sigle du mouvement. Et c'était le soir, commençait à faire froid, il y avait du monde, mais tout le monde était parti dans les jardins de Trocadéro, on entendait le bruit des haut-parleurs, la foule, bon. Et j'étais donc seul. Et tout à coup, je vois arriver une femme avec une petite fille, une femme 35-40 ans à peu près. Elle s'approche de moi, et puis, elle ne dit rien. Alors, je ne dis rien non plus, j'attendais qu'elle me parle, mais j'avais plus ou moins deviné ce qu'elle allait me dire. Et puis, à un moment, elle me dit, elle lâche en quelque sorte ce qu'elle avait préparé, elle a dit, vous savez, on m'y a poussé. Et c'est arrivé le 10 février, nous étions le 19 octobre, je l'ai appelé Jean. Alors, elle se met à pleurer. Elle avait écarté sa petite fille, et alors je l'embrasse, bien sûr. Je crois que j'avais une médaille miraculeuse que je lui ai donnée. Et je voulais dire ceci, c'est que elle était... je lui ai dit, pour la consoler, que je lui rappelais les phrases qu'avait dites le père Daniel Ange à ce sujet, Daniel Ange de Beaupoux, il avait dit, si vous donnez un nom à votre enfant... Si vous demandez pardon à Dieu, et si vous demandez pardon à votre petit bonhomme, puisque maintenant il a un nom, parce que l'avortement bien, bien souvent consiste à, je dirais, à ignorer, à penser c'est une chose, donc il a un nom, eh bien, il va vous pardonner. Lui, il est heureux, il est dans les mains de Dieu, il va vous pardonner. Et un jour, vous allez mourir, vous-même, à votre tour, eh bien, la première personne qui va vous recevoir au paradis, eh bien, ça va être votre petit bonhomme. Et... Je terminerai en disant ceci, c'est que cette femme cherchait un pardon. Et ce n'est pas Madame Veil, avec tout le respect qu'on peut avoir pour sa personne, parce que c'est un être humain, bien entendu, mais qui a fait l'horreur, et d'autres avec elle. Eh bien, c'est donc pas Madame Veil qui va la consoler, ce n'est pas non plus le MLF. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les larmes qu'elle avait, ce n'est pas, elles vont pas disparaître, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus Monsieur Freud qui va la consoler, lui disait qu'il n'y avait pas de péché, il n'y a que des complexes. Il pensait que Dieu n'existe pas, donc il n'y avait pas de pardon, n'est-ce pas? Et je conclurai en disant ceci, cette citation de Monseigneur Charles, qui était le recteur de la basilique de Montmartre, auquel on demandait, Monseigneur, que pensez-vous de la psychanalyse? Et il avait répondu ceci de façon très courte, très profonde et aussi très plaisante, il disait ceci, un confesseur, c'est moins cher.
Alors, moi, je conclurai avec un appel d'auditrice qui nous dit, émission formidable, j'ai avorté moi-même il y a 12 ans, je porte en moi depuis une honte et une tâche indélébile. Je me suis converti il y a 2 ans, et si on écoutait le pape et son message, il n'y aurait plus d'infidélité ni de relations sexuelles hors mariage, l'avortement et le sida disparaîtraient. Bah, évidemment, ça peut faire ricaner. Je comprends qu'on rigole en entendant ça, mais simplement, c'est le reflet du simple bon sens. Et je voudrais citer, alors donner pour terminer quelques indications. Je rappelle l'existence de l'association Mères de Miséricorde, qui s'occupe des mères en difficulté, que je vais recevoir à ce micro prochainement, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper.
C'est remarquable.
Leur téléphone, je crois, est le 64 48 24 24. Également, les femmes et les enfants d'abord, Secours aux futures mères, qui est une association dont on me parle, qui est dirigée par Madame Poulot, 109 rue de France à Vincennes, je ne connais pas, mais...
Tout à fait remarquable aussi.
Aussi, oui. Et alors, naturellement, toute cette émission n'était pas une émission en l'air. Elle était destinée à préparer et à appeler à la manifestation, enfin à la participation à la Journée mondiale pour la vie, qui se déroulera le dimanche 25 avril...
Le samedi 24 avril,
14h30, place de l'Opéra à Paris. Cette manifestation a reçu le concours de l'ensemble des mouvements français pour la vie. Le même jour aura lieu à Lille un défilé automobile à l'initiative de différents groupes locaux de respect de la vie. Cette journée se prolongera le dimanche 25 avril par un spectacle musical Chant d'espoir pour la vie, avec notamment Catherine Salvia, sociétaire de la Comédie Française, Isabelle Gombeau et Princesse Erika au Théâtre du Gymnase 38, boulevard Bonne Nouvelle, Paris 10e à 16h30. Moi, je voudrais rendre hommage à ces femmes, Catherine Salvia, Isabelle Gombeau et Princesse Erika, qui, dans l'ambiance actuelle d'un véritable terrorisme qui règne sur ce sujet, n'hésitent pas à se mettre en avant et à se compromettre, c'est ça. Le comité pour sauver l'enfant à naître invite tous les défenseurs de la vie à répondre massivement à son appel le 24 avril à Paris et dans toute la France. Alors, samedi 24 avril à 14h30, place de l'Opéra à Paris, grande chaîne de la vie, avec intervention en direct de Christine Boutin, qui téléphonera depuis Dubrovnik, et de Gitane Maltais, qui, elle, téléphonera depuis le Québec et fera une intervention. Ce sont, elles aussi, des véritables militantes de la lutte pour la vie.
Pour la vie. Je puis dire, enfin, mon association s'appelle SOS Tout Petit, on existe depuis 6 ans et demi, et bien sûr, nous participons de tout cœur à cette manifestation du 24 avril. Nous en avons une autre qui est prévue, si vous voulez bien retenir, le 15 mai, c'est un samedi. Le rendez-vous était à 8h du matin, comme d'habitude, 8h du matin, à la Bédaille Miraculeuse, 140 rue du Bac, métro Sèvres-Babylone. Et si vous voulez le téléphone de mon association, l'association, c'est le 47 83 97 42.
Merci docteur,
merci
à bientôt.
Vous.
C'est joli, hein. C'est de la musique religieuse. C'est le chanteur, c'est Stillenart, comment ça s'appelle? Oui, Stillenart, par les petits chanteurs à la croix de bois. À la croix de bois. Alors, vous n'avez pas fini de les entendre, parce que je vais tout vous dire, le petit-fils des Varlets, il est petit chanteur à la croix de bois. Alors, on va avoir droit, nos petits chanteurs à la croix de bois, à toutes les sauces, maintenant. Ben oui, mais il faut bien aider, il faut bien aider. Je précise ça parce que, à la suite de l'émission de la semaine dernière, des auditeurs nous ont demandé, mais qui sont ces enfants étrangers qui chantent admirablement? Ce ne sont pas des enfants étrangers, ce sont des enfants français qui chantent en étranger. Voilà. Et là, ils chantaient en quoi? C'est de l'allemand, ça? Ah ouais? C'est joli, l'allemand. Vous connaissez la célèbre histoire, Daniel Raffard de Brienne, du monsieur qui dit l'allemand... L'allemand est une langue extrêmement douce, alors que le français est une langue horriblement gutturale. La preuve, die Vögel singen in den Wald, en allemand, ça donne en français les petits oiseaux chantent dans la forêt. C'est effectivement une langue gutturale. Voilà. On change complètement de sujet. On va se détendre un petit peu. Ça ouvrira probablement moins de polémiques, j'espère, parce que alors, si on reçoit un message de quelqu'un qui nous dit « Si vous continuez à parler du point de croix, je ne paye plus ma cotisation », alors là, c'est la fin des haricots, comme on disait.
Je reçois Mme Argouache et Mme Bresson qui représentent France Point de Croix, une association, un journal et une passion.
Oui, c'est une passion. Si on est capable d'y consacrer autant de temps et autant d'énergie, c'est que c'est une passion et qui devient de plus en plus dévorante.
Alors, ce qui est très frappant quand on voit, je disais tout à l'heure, votre livre de presse, enfin votre livre d'œuvre, je ne sais pas comment il faut appeler ça, c'est que d'abord, on découvre que le Point de Croix est une passion très ancienne.
Oui, on pense que ça peut remonter au Moyen-Âge. On en est sûr pour le Moyen-Âge et peut-être au-delà, peut-être avant.
Et ensuite, on découvre que c'est une passion dévorante et un peu folle, un peu maniaque. C'est-à-dire qu'on voit des choses dont on imagine que les auteurs, ou les brodeuses, je ne sais pas comment on dit, ou les crucifilistes, vous appelez ça, c'est assez
joli. Oui, c'est une création d'une de nos amies pour désigner les passionnés de Point de Croix, les brodeuses au Point de Croix. Parce que brodeuse au Point de Croix, c'est un peu long. Crucifiliste, c'est beaucoup plus court. Et c'est très imagé.
Ça a l'avantage de n'être compris que par les gens qui ont fait du latin, donc les gens fréquentables. Donc les crucifilistes sont, je peux le dire sans méchanceté, mais des monomaniaques, parce que visiblement, on voit des œuvres qui ont dû demander 5 ans de travail à raison de 8 heures par jour.
C'est possible, mais quand on aime, on ne compte pas. Et monomaniaque, je ne crois pas, parce que beaucoup dans nos amis n'ont pas que cette passion. Il y en a qui collectionnent les rabots, il y en a qui font du patchwork, il y en a qui font du sport, bien sûr.
C'est les polymaniaques, alors.
Voilà, exactement. Mais le point de croix, c'est quelque chose qu'on peut emporter partout avec soi, aussi bien dans une file d'attente d'aéroport que dans le RER, et ça permet de se détendre.
En plus, quand on est dans le RER, c'est une arme pour se défendre éventuellement contre une agression.
Oui, ça peut servir aussi.
Alors, quelle est la différence entre le point de croix, quelle est la spécificité du point de croix par rapport à la broderie? Moi, je me souviens que ma grand-mère, elle disait elle-même qu'elle était une très mauvaise brodeuse, mais elle brodait quand même un petit peu. Elle avait une amie qui était une brodeuse admirable et qui faisait des très 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 belles choses, mais ça n'était pas du point de croix, c'était de la vraie broderie. Alors, quelle est la différence?
Le point de croix, c'est un point carré. Quand vous prenez un bouton qui a 4 trous, vous voyez les 4 trous dans lesquels vous devez piquer votre aiguille. Le point de croix, c'est exactement la même chose. Il y a 4 trous dans lesquels on passe son aiguille pour former 2 diagonales qui se croisent et qui forment le point. Ça fait une petite tache de couleur. Et puis, en juxtaposant plusieurs petites taches de couleur, on arrive à un dessin.
Ça veut dire qu'il faut utiliser un support, comment dirais-je, particulier. On ne peut pas faire du point de croix sur n'importe quel tissu.
Si. Bien sûr, il y a des toiles qui s'y prêtent particulièrement, où on voit d'une façon évidente les trous où il faut piquer, mais on peut broder aussi bien sur de l'éponge, sur du jean, sur une couverture, sur ce qu'on veut. À ce moment-là, on s'aide d'un canevas qu'on fixe sur le tissu, par-dessus lequel on brode, et qu'on enlève fil à fil quand on a fini de broder.
Alors vous nous disiez que ça existe probablement depuis le haut Moyen-Âge.
Oui, à peu près. Certaines personnes disent que c'était une façon de copier les tissus d'Orient, les tapis en particulier.
Donc c'est postérieur aux croisades.
Oui,
en tout cas, ou contemporain avec les premières croisades.
Oui, mais d'autres personnes disent que des ornements religieux pour certains prélats ont été brodés avec du point de croix aussi.
Justement, est-ce que cette passion, et vous venez de nous donner un début de réponse, est-ce que cette passion débouche sur autre chose que la simple réalisation de broderie au point de croix? Est-ce que vous avez tendance à faire des recherches, à chercher des modèles rares, à faire de l'histoire du point de croix? Madame Moisson, vous pouvez répondre, vous êtes, je crois, la présidente de l'association, mais pour l'instant, vous avez observé de conrare le silence prudent.
Vous avez parlé du point de croix et des autres points de broderie. Je voulais justement apporter aussi quelque chose en disant que, effectivement, le point de croix, c'est le point le plus simple en broderie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est tant pratiqué. Il est accessible à tout le monde. Ce qui n'est
même
pas le cas de la broderie.
Même à des tout petits enfants, puisque j'ai vu dans vos travaux.
Et autrefois, il était d'ailleurs très pratiqué par les petits enfants, parce qu'on leur apprenait à l'école. Ça n'est plus le cas maintenant. C'est une activité qui est reprise en général par des adultes, et très peu par les enfants, parce que ça n'est plus enseigné.
à part certaines institutrices qui y prennent elles-mêmes un plaisir et qui ont envie de communiquer cette passion.
Et puis quelques mamans aussi qui ne peuvent pas résister à l'envie de transmettre cette passion.
Et en fait, bon, le point de croix, il a le mérite d'être très accessible et je pense que c'est pour ça qu'il revient en force maintenant. La broderie est tout un art. Il demande des années avant de posséder, disons, non seulement la technique, mais aussi tout l'art d'interpréter, si vous voulez, un modèle pour donner une tournure au point qui rende un peu le dessin. Tandis que le point de croix a un côté très géométrique et naïf, et qu'il faut lui conserver d'ailleurs. Et actuellement, justement, il y a beaucoup de gens qui redécouvrent ce point qui est tout simple, parce que justement, d'abord, il est très simple, on peut l'emporter partout. Il faut dire qu'on nous propose de très jolies choses. Et ça, c'est peut-être la différence avec ce qui existait justement autrefois.
Oui,
où
avant,
c'était tant pratiqué
laid,
par les petites filles sur du canevas, qui étaient des supports quand même qui étaient assez rustiques. Mmh. Alors que maintenant, il y a beaucoup de choses à la disposition. Il y a une grande variété de supports. Il y a des filles,
dans les familles,
il y a des
quand la petite fille arrivait avec son cadeau de la fête des mères, qui était une broderie au point de croix approximatif sur un tissu qui ressemblait à de la toile émerie, c'était l'angoisse parce qu'il fallait attendre au moins 3 jours avant de mettre ça dans un tiroir. Mais tandis que là, il y a des choses merveilleuses,
il y a
des
choses extraordinaires. Et je pense que justement, ce point a été très dévalorisé pendant toutes les années. On parlait du MLF, enfin, moi, c'est ma génération, donc j'ai vécu tout à fait ça. C'était l'époque où tous les ouvrages, disons, dits de dames, qui est un terme très péjoratif pour les femmes, étaient tombés aux oubliettes, à tort d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui ont continué à en faire, envers et contre tout, et c'était très dommage, parce que finalement, c'était quand même une activité très détendante. Et puis maintenant, en fait, on voit apparaître de très jolies choses. Et les gens ont envie de faire des choses artistiques. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que justement, avec ce point tout simple, on peut créer soi-même. C'est-à-dire, on peut d'abord utiliser tout ce qui est à notre disposition pour essayer de faire des compositions personnelles, de choisir ses couleurs, de faire des cadeaux personnalisés. Je crois qu'il y a énormément de gens qui font des cadeaux à des occasions. Sophie
oui,
a
je
un
vois,
petit tableau
Sophie
pour
Argouache
des licences.
Sophie Argouache a toute
des...
une collection de, non pas de faire-part, mais de bons voeux. Je vois Anne-Charlotte à 5 ans. C'est un petit tableau. Oui.
J'essaie de broder pour chacun de mes enfants, à chacun de leurs anniversaires, un petit tableau. Je ne suis pas l'initiatrice de cette idée. Régine Deforge a fait ça pour tous ses enfants.
Alors oui, ça c'est amusant, c'est qu'une des vedettes de votre association, c'est Régine Deforge.
Non, en fait, elle n'est pas une vedette, parce que bon, nous sommes... en fait, l'association est partie d'une équipe de passionnés, comme vous pouvez voir. Simplement, Régine Deforge a eu quand même un grand mérite, c'est qu'elle a fait paraître en France un livre en 1986, le livre du point de croix, alors qu'en France, il n'y avait rien, contrairement à tous nos voisins européens et États-Unis, où cette activité existait et a toujours existé. Alors qu'en France, bon, il y a eu toute une période dans les années 70 où il fallait pratiquement se cacher pour faire du point de croix. Et les femmes n'osaient pas en parler. Et on commence tout juste à oser en parler.
Même encore maintenant, Régine Deforge a
vraiment fait sortir justement un certain nombre de personnes qui tiraient l'aiguille dans leur coin et qui l'ont remercié.
C'est très curieux.
Parce que elle lui a permis justement de d'oser montrer et de dire qu'au fond on n'était pas toutes des cruches si on.
C'est ça.
Et en général, au contraire.
Les jeunes femmes qui pratiquaient cet art le pratiquaient en secret parce que elles avaient peur de passer pour des cruches regard de l'opinion publique installée.
Exactement. C'est bien plus gratifiant de jouer au golf que de faire du point de croix, en fait, c'est ça.
C'est plus fatigant
non,
aussi.
Ou même aussi, c'était l'époque où, si vous voulez, on a découvert le travail pour la femme. Il fallait un peu, pour être libérée, les femmes ont fait des études. Moi-même, j'ai travaillé, j'ai fait des études supérieures. Et quand je me suis mise à tirer l'aiguille, c'est vrai que j'ai eu les quolibets de mon entourage, mes parents, mon mari, enfin, tout le monde me regardait avec un petit air narquois en me disant « Ma pauvre, tu es vraiment tombée bien bas.
» Est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose d'intelligent? C'est ça qu'on disait, non?
Absolument. Et bon, de toute façon, j'ai maintenu parce que j'y trouvais un très très grand plaisir. Et puis je me suis aperçue qu'il y en avait, il y en avait d'autres. Et puis petit à petit, en fait, on a vu des bouquins apparaître, des jolis modèles proposés dans le commerce, et surtout, on a vu des femmes de tous âges, des jeunes, des filles qui travaillent, qui se lèvent parfois à 5 heures du matin pour trouver une heure avant de partir à leur bureau.
Ah, ça, c'est une véritable
passion. Et ça, j'en ai entendu plusieurs fois, hein, des filles qui travaillent.
Il y en a même qui en font peut-être au bureau, non ? Dans c'est l'administration. Bon, on peut pas le dire.
Je vous laisse libre.
Est-ce qu'il y a des hommes qui pratiquent le point de croix dans votre association?
Mais oui, il y en a dans notre association. Il y a des professionnels, bien sûr, des merciers, mais il y a quelques hommes et nous avons reçu des courriers disant « Si vous n'êtes pas sexiste, acceptez mon adhésion. »
Et alors, c'est bien ce qu'ils font?
Ah oui, bien sûr, ils font des choses charmantes. Nous avons même, parmi nos amis, un ménage de brodeurs. C'est le mari qui a initié sa femme à la broderie. Et à notre dernière exposition, ils avaient chacun un cadre qui représente exactement le même abécédaire. Mais lui l'avait brodé en bleu et elle l'avait brodé en rose.
Oui, parce que là, vous venez d'employer le mot d'abécédaire. Et c'est vrai qu'un des grands, grands classiques du point de croix... Mmh. Alors ça peut paraître... bizarroïde, parce que on se demande vraiment ce qu'on va en faire, et en fait c'est souvent magnifique. Alors ce grand classique, c'est de broder des abécédaires, des suites de lettres, de chiffres.
C'est-à-dire qu'à l'origine, en fait, l'abécédaire, justement, le point de croix, à l'époque où il a été très pratiqué au 19e et début du 20e, c'était pratiqué par les petites filles, en vue d'apprendre à écrire les lettres et les chiffres, et en même temps, vous imaginez, c'est quand même très difficile pour un enfant de compter les points, de suivre une grille. Ça représentait, au niveau de l'apprentissage, si vous voulez, une maîtrise de soi qui était considérable. Je pense que nos enfants, si vous voulez, ne seraient plus aptes à cet âge-là, parce qu'on a trouvé des abécédaires de grande taille, faits par des petites filles de 6, 7, 8 ans. Mmh. Alors que nos enfants, moi j'estime qu'à partir du CM1, CM2, ils commencent à être aptes et à être capables, disons, de se débrouiller une fois qu'on leur a montré un peu la technique, alors que plus jeune, il fallait vraiment une volonté terrible de la part de l'adulte pour faire en sorte que ces petites filles soient calmes, tranquilles, parce que ça allait avec toute une éducation. Oui. Et puis l'idée, c'était aussi marquer son linge derrière. C'est pour ça que ça a été aussi si mal considéré. C'était l'image de la femme qui brodait son trousseau, tranquille, au coin du feu, soumise,
en attendant
son mari.
Vendue,
voilà. Et je pense que le point de croix a eu une image qui l'a traîné à cause de ça, alors que maintenant, en fait, c'est tout à fait autre chose.
Alors, des auditrices téléphonent, pas d'auditeurs pour l'instant. L'essentiel des questions, c'est où peut-on trouver des modèles de points de croix à copier? Donnez-nous des adresses, donnez-nous des modèles. Une auditrice passionnée nous écrit ça.
Eh bien, elles peuvent déjà adhérer à notre association. De cette façon, elles recevront le journal. Et dans le journal, elles trouveront des modèles et des adresses.
Voilà, voilà une attitude commerciale positive.
Ouais, écoutez, donc, nous avons déjà 900 adhérentes en France, alors que l'association existe depuis trois mois et demi. Et il y a une attente, comme vous montrent vos auditrices là qui écrivent. Nous, on reçoit énormément de courriers exactement de ce type-là, parce que pour l'instant, il n'y a rien, si vous voulez. Il n'y a pas un journal spécialisé dans le point de croix. Or, il y a énormément de gens qui le pratiquent et qui auraient aimé trouver quelque chose qui leur parle de ce qu'ils aiment. Or, c'est justement l'objectif de l'association. Nous, on est association, donc on propose un journal qui est ce qu'il est, qui est un journal d'association pour l'instant, c'est-à-dire avec les moyens dont on dispose, mais qui, justement, est destiné à pouvoir parler de cette matière que ces gens aiment, leur donner des adresses, pouvoir échanger des trucs, qu'elles puissent rentrer en contact les unes avec les autres, parce que nous tenons beaucoup à ce que ce journal soit aussi un journal de contact, c'est-à-dire que par le biais de l'échange de modèles, d'idées, elles puissent rentrer en contact directement avec d'autres filles de leur région, éventuellement monter un petit groupe, un club, comme il se monte actuellement en France.
Voilà un programme fort sympathique. Alors, un auditeur est très content d'apprendre que Madame Régine Desforges s'est rangée et fait maintenant du point de croix. Bon,
écoutez, je vais la défendre parce que je l'ai interviewée.
Elle n'est pas attaquée.
Non, c'est une femme qui est passionnée par l'écriture et passionnée par le point de croix. Je l'ai interviewée pour le journal, justement, parce que j'estimais qu'elle avait rendu un service de ce côté-là. En fait, elle l'a fait parce qu'elle aime cette activité. Et elle a appris cette activité chez les bonnes sœurs. Elle était pensionnaire et elle a découvert à la fois la littérature et le point de croix grâce à l'enseignement des bonnes sœurs. Et c'est curieux parce qu'au fond, ce sont ses deux passions et elle les a découvertes au cours de l'enseignement qu'elle avait reçu dans le village qu'elle habitait à l'époque.
Une auditrice nous dit « Vous auriez dû recevoir Jean-Pierre Coff ». Qui fait du point de croix partout. Alors, il est dans votre association ?
C'est bien, pas encore, mais nous l'attendons les bras ouverts. C'est bien la preuve qu'on peut être un homme tout à fait sympathique et faire du point de croix.
Jean-Pierre Coff, je le signale pour les auditeurs qui ne seraient pas branchés Paris, comme on dit maintenant, c'est cet ancien cuisinier qui avait un restaurant qui s'appelait, si je me souviens bien, la Ciboule ou la Ciboulette ou quelque chose comme ça, et qui est devenu maintenant l'ayatollah de la cuisine. C'est lui qui dit « Mais ce jambon, mais c'est de là !» et des mots que je peux pas dire à Radio Courtoisie, sauf quand je suis en colère, et qui était un garçon assez rigolo, pas antipathique du tout. Et alors c'est sympathique de savoir qu'il fait du point de croix, au moins.
Et le roi d'Espagne aussi.
Ah. Vous allez finir par me le rendre sympathique. Et alors une auditrice dit « Je n'écouterai plus Radio Courtoisie si Serge ne fait plus d'émissions comme celle-ci. » Cette double négation me laisse perplexe. Peut-être qu'il faut que je fasse toutes les semaines une émission sur le point de croix. Je ne sais pas si c'est ce qu'attend la majorité des lecteurs. Combien avez-vous des auditeurs ? Combien avez-vous d'adhérents pour l'instant ?
Actuellement, nous avons déjà à peu près 900 adhérents et adhérentes en 3 mois de création. Ah, et toutes les semaines, ce qui est très, très sympathique pour nous qui animons l'association et qui sommes vraiment passionnés par cette activité, ce qui est très sympathique, c'est le courrier qui arrive disant « Enfin, un lien entre nous ». Enfin, quelqu'un avec qui on puisse parler de cette passion. Bravo, continuez, merci. Enfin, c'est vraiment, on est bien soutenu de ce côté-là.
Alors, on va terminer en donnant l'adresse de votre association. Elle a le mérite d'être simple et facile. La cotisation est de combien ?
150 francs pour 4 numéros du journal de l'année, en fait. Et l'adresse, c'est donc France Point de Croix, boîte postale 33. 78103 Saint-Germain-en-Laye.
Et on peut ajouter, si on est moderne, CEDEX. Oui. On n'est pas obligé de le faire. Madame Bresson, merci. Madame Argouache, merci. France Point de Croix,
c'est nous qui vous remercions.
Boîte postale 33 à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que je peux vous demander une chose qui n'a rien à voir avec le Point de Croix ? Comment va votre beau-frère ?
Il a l'air en forme en ce moment.
Le beau-frère de Sophie Argouache, c'est le père Argouache. Le formidable animateur de Riomont, du village d'enfants de Riomont, que je salue. Il peut pas nous écouter parce qu'ils sont dans le Nord, mais je le salue quand même. Et ceux qui iront le voir pendant le week-end pourront lui transmettre mon salut. Entrez, messieurs. Il y a un peu d'agitation dans le bureau puisque M. André Bercoff fait son entrée et Mme Argouache, Mme Bresson nous abandonne. Si vous voulez vous asseoir là, M. Bercoff, comme ça on pourra se voir pour parler. Sans perdre une minute, je reçois Marc Dem. Marc ?
Oui ?
Je vous remercie d'avoir fait preuve de patience, mais je sais que vous devez être... mais vous devez être passionné par le point de croix aussi.
Oui, si on veut. Mais je dois dire qu'il y a un moment où j'en ai fait autrefois.
Ah oui ?
Peu, j'ai dû y faire, il passait 2 après-midi.
Est-ce qu'entre 2 bouquets de fleurs, Cécilia pratique le point de croix ?
Non, elle fait de la dentelle.
Ah, très joli.
Ouais, non, je n'en fais plus souvent.
Bien, ces nouvelles personnelles étant échangées, vous pourrez peut-être nous donner des nouvelles de notre Sainte Mère l'Église ?
Oui. Eh bien, l'autre jour, nous étions restés sur le Carmel d'Auschwitz. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, sauf que la fameuse lettre, c'est bien une seconde lettre. C'était la lettre du pape qui leur a été remise et à laquelle je fais, dont je parle dans le prochain numéro, après avoir analysé différentes choses. Le pape leur dit bien qu'elles doivent se déplacer par la volonté de l'Église. Mais comme il fait dire, je suppose que ça n'a pas été dit sans son accord, il fait dire par Mgr Navarro Valls, son porte-parole, que le souverain pontife n'a pas voulu donner un ordre, que c'est simplement son opinion personnelle, eh bien, je pense qu'il faut voir là le, comment dirais-je, une pratique très, très ancienne dans la diplomatie qui fait qu'on est obligé de faire un geste, mais en dehors de cela et en supplément, on fait ce qu'il faut pour que ce geste n'ait pas la portée qu'il devrait avoir. Hein. Je crois qu'on peut interpréter comme cela la contradiction apparente entre donc cette lettre et ce qu'a dit le porte-parole du Vatican.
Bien, on attendra pour en savoir plus. Au fond, cette affaire finira forcément par s'éclairer. Avez-vous d'autres nouvelles et des bonnes?
Oui. Ah ben si, une très bonne nouvelle. Vous savez qu'on a retrouvé une nouvelle tribu juive.
Oui.
Oui. On en avait retrouvé donc en Afrique, les Falachas, et on en a retrouvé une en Chine.
Il y avait eu une émission d'ailleurs fort intéressante de la série du rabbin Eisenberg qui est diffusée le dimanche matin sur France 2, qui évoquait toutes ces communautés hétérogènes qui revendiquent leur appartenance à la communauté israélite. Et alors effectivement, on avait vu une communauté, on connaît les Falachas, il y a une autre communauté noir dont j'ai oublié le nom, et puis on avait vu cette communauté chinoise, ce qui est assez inattendu, effectivement.
Qui seraient les descendants de juifs ayant fui les Romains après la destruction du temple de Jérusalem.
Oui.
Ça remonte donc à un certain temps.
70,
70.
Si je ne me trompe pas.
Oui.
Bon. C'est une des rares dates que je connais parce qu'elle est simple.
Oui, là, voilà.
Et à 70, 1515 et 1789. Le reste, je fais appel à Daniel Raffard de Brienne quand j'ai un doute. Et une troisième nouvelle?
Oui, eh bien, les Allemands ont ils en ont plusieurs, mais ils ont une théologie assez particulière. Non seulement ils ont Brevermann, mais ils ont Ute Rank Heinemann.
Oui.
Cette personne est une théologienne
et moi, je
qui
vous
a
dis
fini
Ute,
par se faire mettre dehors, par les évêques.
Mais dehors de quoi?
De son enseignement. Elle tenait une chaire à Duisbourg, à la faculté de théologie.
Mmh.
Mais elle avait
travaillé sur du point de croix.
20 ans.
Oui.
Et elle a formé tous les professeurs de religion de la Westphalie et puis d'autres régions. Et quand on voit ce qu'elle dit maintenant, parce qu'elle fait des conférences, comme elle n'a plus sa chaire, elle fait des conférences et elle dit des choses aussi extravagante que ce fameux Brevermann. Rien de nouveau, c'est-à-dire qu'on retrouve tout ça. Par exemple, on retrouve dans Voltaire cette affaire de religion d'anthropophage, religion de cannibale, parce que les chrétiens...
Oh, c'est un argument intéressant, ça, effectivement.
...mangent la chair de Christ, etc.
Ah, oui.
Enfin, des andouilleries de ce genre,
oui.
Bon, alors voilà.
Si on ose dire à propos d'un sujet aussi délicat.
Oui.
Je vais en parler d'andouillerie, c'est...
Oui.
Voilà. Alors donc, cette dame a été débarrassée de ses fonctions.
Elle a été débarrassée de ses fonctions, ça fait déjà quelques années. Mais depuis, elle sillonne le monde. Elle a été racontée à Valence, par exemple, que la virginité de Marie, c'était pratiquement une invention de Jean-Paul II.
Oh, oui.
Une manie qu'il avait... et dernièrement, si j'en parle, c'est parce que il y a quelques jours, au début de la semaine, elle était la vedette de l'émission allemande La Chaise Ardente, qui est une émission un peu comme ici le...
Quel joli titre.
Oui. Le...
Et alors, qui a eu le plus chaud, la chaise ou la dame?
Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a certains auditeurs, téléspectateurs qui ont dû avoir chaud en l'écoutant.
Ah oui. Bien, écoutez, c'est intéressant de voir que les théologiens font de grands progrès en Allemagne. Je pense qu'on va bientôt avoir des théologiens aussi intéressants en France, c'est-à-dire des théologiens qui prêchent la religion catholique sans être catholiques du tout, puisqu'ils ne croient pas un seul des dogmes, et on se demande vraiment ce qu'ils foutent chez nous. Ils pourraient aussi bien aller ailleurs, où ils seraient probablement beaucoup mieux reçu. Vous nous avez donné un échantillonnage de quelques très peu d'informations parmi les nombreuses qui sont publiées dans votre lettre confidentielle d'information religieuse, je le rappelle, qui s'appelle Iota Unum et qu'on peut se procurer en écrivant boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX également, disons. Décidément, ce soir, c'est une soirée Saint-Germain-en-Laye.
Oui.
Merci Marc, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Voilà, je me tourne vers André Berkoff qui vient de faire son entrée dans notre studio. Je vous remercie d'être venu, c'est la preuve que vous êtes un homme de curiosité et d'ouverture.
Tout à fait.
Vous avez écouté peut-être en voiture l'émission en venant, non ?
Non, malheureusement pas. Alors, je peux pas vous dire si j'avais que... Non, j'étais...
C'est peut-être pour ça que vous êtes là.
Je vais vous dire, non, j'étais dans les embouteillages. Oui. Les plus... Pourquoi vous avez parlé de moi ?
Non. Très peu.
L'égocentrique. non, pas du tout. On était un peu en retard déjà et on se demandait, on écoutait France Info pour tout vous dire.
Oui, vous faites une bonne écoute aussi. Oui, je suis content de vous recevoir parce que vous êtes un personnage public et médiatique. Vous êtes forgé vous-même un personnage public et médiatique. D'abord en faisant ce qu'on appelle des coups. Notamment des coups dans la littérature, dans l'édition au moins, et vous avez été un des plus, comment dirais-je, mystérieux best-sellers des 10 dernières années, sous le pseudonyme de Caton, dont Le Canard Enchaîné révèle aujourd'hui, en piquant dans le bouquin d'Attali, la genèse. Alors je vous parlerai de ça, parce que ça me paraît quand même très amusant. Et puis, vous avez fait beaucoup d'autres choses, mais maintenant, si vous êtes au premier plan de l'actualité médiatique, c'est parce que vous avez une émission qui est quand même très très particulière sur France 3, qui s'appelle « Français si vous parliez », je pense que c'est par référence à « Français si vous saviez ».
Tout à fait, Bernanos.
Et donc c'est une émission qui passe à 13h30, 4 fois par semaine.
C'est ça.
Et qui a l'ambition de donner la parole aux Français.
C'est ça, absolument.
Ce qui n'a jamais été fait de cette façon-là, en tout cas à la télévision.
Je ne crois pas.
Quel est le mécanisme par lequel vous êtes arrivé à créer, à inventer cette émission ?
Je vais vous dire, c'est venu vraiment parce qu'on me disait, mais comment quelqu'un qui écrit, un intellectuel, avec l'acception qu'a aujourd'hui ce terme, mais enfin disons quelqu'un qui écrit, fait de la télévision. Je dirais que c'est venu tout à fait naturellement, en ce sens que je crois beaucoup à... Vous savez, on parle beaucoup de la démocratie, de la représentation. La masse représentative et de sa crise.
Oui.
Et je dirais, et c'est le moins que l'on puisse dire, et je dirais qu'à côté de cette démocratie, il y aurait ce que j'appellerais une démocratie de participation. Et en fait, on n'a rien inventé. Je pense que simplement un certain nombre de moyens technologiques aujourd'hui nous permettent de ressusciter, en partie, toute proportion gardée, l'agora et le forum. C'est-à-dire qu'on oublie quand même trop souvent que dans le système de représentation, il y a eu peut-être quelquefois un peu trop captation par un certain nombre de gens, ou de castes, ou de milieux, une captation de la parole, et que donc un certain nombre de gens ne l'avaient plus. Je ne dis pas ça en disant « Ah, ce sont eux mêmes le même milieu, etc. » Je dirais que pour moi, il était important de montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule parole qui circulait en milieu fermé ou en milieu clos, et qu'il y avait des gens, et tout le but de l'émission est de donner la parole. C'est pour ça que je suis debout avec mon micro. C'est un acte physique, pas difficile, mais enfin qui dit bien ce qu'il veut dire. Je donne la parole, c'est-à-dire que je suis parmi le public, et quand les gens réagissent, je leur tends le micro.
Alors, vous êtes certainement, vous serez certainement d'accord avec moi pour admettre qu'il y a plusieurs façons de confisquer la parole. Il y a d'abord, la façon violente qui consiste simplement à interdire l'accès.
La censure,
l'interdiction de l'accès aux moyens de communication. Il y a un autre moyen qui est le langage mandarinal, qui est le langage codé, le langage secret, le langage des castes. Et puis maintenant, avec la société dans laquelle la société médiatique dans laquelle on vit, il y a un moyen nouveau qui, je voudrais pas vous faire un procès d'intention, mais qui explique peut-être la facilité ou la relative facilité avec laquelle vous avez pu créer cette émission. C'est que la médiatisation, la communication, notamment à la télévision, met en branle des mécanismes d'une telle complexité, mécanismes psychologiques et mécanismes matériels d'une telle complexité, que pratiquement on peut, sans grand risque, se permettre de donner la parole à tout le monde, parce qu'il est probable que ces gens qui ne maîtrisent pas, faute d'habitude, faute de formation, l'engin par lequel ils vont prendre la parole, vont tenir le langage consensuel. Et qu'il y a très très peu de chances pour qu'ils disent des choses qui sont interdites.
Alors je vais vous dire, ne croyez pas cela du tout. Alors là, je m'inscris tout à fait en faux, je peux vous dire vraiment par expérience. Je crois que là, c'est d'avoir peut-être une vision un peu de préjugé, une vision un peu programmée de ce que sont les gens. Vous savez, les gens, ils ne sont pas ceci ou cela. Ils sont beaucoup plus complexes, et vous le savez bien. Je veux dire, moi, ce qui m'a frappé, ça fait 8 mois que je me balade en France. Il faut savoir que je ne suis pas à Paris. Hein.
Oui, c'est
je me balade, vous savez, un peu partout.
Vous allez dans des villes.
Voilà, dans des villes différentes, etc. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est justement la complexité. Vous parlez de complexité, mais la complexité des gens. On m'avait dit au début, mais attends, si tu fais parler le public, on m'avait dit, mais tu vas voir, ils en ont rien à dire, ils sont là, bovins, vous savez, les Français sont des veaux, la fameuse phrase.
Est-ce que je peux vous demander qui vous disait ça?
Quoi?
Ça,
et, mais des collègues de la télévision, enfin des gens comme ça, ils disaient, mais faites ton émission, mais ça va pas marcher. Mais personne n'y croyait, je veux dire, au départ, sauf un ou deux responsables, je tiens leur en hommage, qui m'ont dit, bon, on y va, on va le faire. Mais ne croyez pas que la facilité de la... les gens disaient, bon, on va essayer, on va voir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai des invités, évidemment, et il y a le public. Et au bout d'un moment, je vois des gens s'agiter. Je vois des gens qui ont envie de parler. C'est là où je vais vers eux. Je ne vais pas vers eux en disant, alors monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire? Et bon, ou madame, etc. Eh bien, je vous assure que je suis très souvent, très heureusement surpris, et maintenant plus surpris du tout, parce que les gens ne sont pas consensuels et ils ont des choses à dire. Et beaucoup de gens peuvent s'exprimer. Je vous donne un exemple. Je sors, là, je suis chez vous. Je viens d'enregistrer deux émissions. L'une sur les nouvelles valeurs par rapport à mes 68. C'est-à-dire, j'ai opposé des 68 arts à des gens nés dans les années 65-68, qui ont maintenant 25 ans. Et puis, j'ai fait une émission sur le RMI. Avec des RMistes, des gens, etc. Je peux vous dire que les gens avaient des paroles extrêmement différentes, extrêmement hétérogènes, et je ne dirais pas toutes passionnantes, bien sûr que c'est inégal, mais contrairement à ce qu'on croit, il y a un réservoir de paroles, et quand je dis de paroles, et de sensibilité et d'idées, autrement plus grand qu'on ne pourrait le croire. Ça veut dire que moi, mon enseignement, simplement une chose, la France, elle n'est pas peuplée de zombies désespérés qui attendent de voir le train passer, il y a une soif de savoir. Il y a une soif d'avoir des instruments, il y a une soif de comprendre, et surtout, une soif de ne pas arrêter de raconter des bobards, qui que vous soyez. Hein.
Vous n'avez pas le sentiment, j'étais frappé par ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça que je vous avais interrompu, parce que les gens qui vous disaient, qu'est-ce que tu vas aller voir, ces bœufs qui n'ont rien à dire, qui ne savent pas s'exprimer, mais de toute façon qui ne pensent à rien, bon, c'est des gens qui font la télévision.
Ce sont des gens qui font ben bien sûr, il y a de ça, il y a bien sûr.
Alors, est-ce que vous ne croyez pas que le grand drame aujourd'hui de la communication et des médias, le mauvais rapport qu'il y a entre les Français et leurs médias, parce qu'il y a un très mauvais rapport, moi je cite toujours ce classement, cet indice de popularité des professions qui mettait sur le même plan le député, la prostituée et le journaliste. Avec un point en moins pour le journaliste quand même, parce que donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire que beaucoup de Français, les Français ne veulent rien dire, mais beaucoup de Français considèrent que la société médiatique est mal gérée parce qu'elle l'aurait confisquée.
Oui, je crois que ce n'est pas seulement ça. Je crois qu'ils considèrent pas qu'elle est mal gérée. Je crois qu'ils ont, vous savez, un sentiment, moi qui me frappe beaucoup depuis quelques années, un sentiment consumériste. Les Français voudraient qu'ils en aient, comme on dit vulgairement, pour leur argent, c'est-à-dire le rapport qualité-prix. Et en cela, on peut se dire que quelquefois, quand on leur raconte n'importe quoi, mais pas seulement sur le plan politique, sur tous les plans, si vous voulez, où vous faites bien la chose, quand vous parlez de la société médiatique. Mais il en va de la société médiatique comme de la société politique. Je ne sais pas, un sociologue que j'ai entendu récemment disait que le rapport des gens qui font les médias, ou qui des décideurs des médias, ou en tout cas un certain nombre, avec les téléspectateurs, sont quelquefois le même rapport que les hommes politiques avec leurs électeurs. Ça veut dire que c'est vrai que vous avez un microcosme, que c'est vrai que des gens, ne citons personne, mais que des gens, comment voulez-vous analyser la France, ou l'Occident, ou le monde, si vous êtes dans votre bureau à ne lire que des journaux, et qu'ici, à midi, vous ne rencontrez que vos pairs, P-A-I-R-S, et que les gens qui pensent comme vous, ou même s'ils ne pensent pas comme vous, ils sont dans le même milieu.
Ils parlent le même langage, en
tout cas. Bon. Forcément, il y a là une espèce de distorsion qu'on connaît. Et je crois que cette distorsion-là est commune à la classe politique, en général, et à la classe médiatique, c'est vrai. Moi, je veux dire, cela dit, encore une fois, ne faisons pas de schématisme. Il y a dans les médias, et heureusement, comme il y a en politique, heureusement, des gens qui ont plus le sens des nuances, et qui quand même ont l'intelligence, sont pas tous non plus des bœufs là, qui ont l'intelligence de voir qu'il y a des choses et qu'il faut aller voir. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que après 9 mois ou 8 mois de tournée à travers la France, je reviens... Je ne dirais pas, je ne vais pas faire encore, mais beaucoup plus optimiste que les analyses que je lis quand je vois apparaître un certain nombre d'analystes, voilà.
Pourtant, vous appartenez, vous par votre formation, votre engagement politique, mais enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'engagement en ce qui vous concerne, c'est plutôt une espèce de, j'ai l'impression, de curiosité un peu rigolarde.
Oui, d'attitude, non, disons que, si vous voulez, moi je n'ai rien à cacher, disons que, si vous voulez, je n'ai jamais milité dans un parti, j'ai plutôt le cœur à gauche, tout à fait, je dis, mais en ce sens d'une attitude, je dirais, vis-à-vis de la vie, beaucoup plus que d'une attitude politique. De toute façon, ce serait long à parler, je pense que le politique est mort. En tout cas, un certain politique est mort.
Alléluia.
Voilà. Bon, et là, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je crois que, en fait, on est beaucoup plus intéressé les utopies, je dirais, messianiques, au sens de Mussolini à Pol Pot. Dieu merci. Bon, ben, c'est terminé. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, je crois.
On peut pas dire entre nous que ça a été un progrès très très visible pour l'humanité de Mussolini à Pol Pot.
Non. Si non, je crois que de toute façon, si vous voulez, je pense que, vous savez, Alphonse Allais, qui était quand même un bon humoriste, disait que les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Donc il faut faire très attention aux tendances
c'était
prolongées.
C'était Alphonse Allais qui disait
c'était
ça.
Alphonse Allais, absolument.
Moi j'aurais pensé que c'était un situationniste qui aurait dit ça.
Donc vous me disiez, oui, vous me disiez que ça vous semble étonnant que moi, grandi dans le milieu...
Voilà, c'est pas que ça m'étonne, parce que je vous connais un petit peu pour vous avoir lu, et je sais que vous avez cette fissure qui par laquelle s'infiltre l'humour, et donc ça épargne tous les mauvais jugements, enfin tous les jugements globalisants. Mais est-ce que votre opinion a changé? C'est-à-dire, est-ce que l'intellectuel de gauche, pour simplifier, installé que vous étiez il y a un an, a changé d'attitude vis-à-vis, employant le mot, du peuple, après cette expérience de...
Alors, je vais vous dire, pas du tout, ça va conforter, parce que j'ai peut-être été intellectuel de gauche, mais jamais installé. Non, au sens, même si vous voulez, je veux dire par là que je n'ai jamais eu, vous savez, une position, je n'ai jamais appartenu à une bande, c'est important, je n'ai jamais eu, pendant que j'ai écrit un livre, des gens qui, dans tel ou tel journaux, vont réagir immédiatement en disant « Ah, Berkoff a sorti un livre, on va tout de suite l'encenser ». Je n'ai pas, moi, pratiqué, chacun son truc, je n'ai pas cherché, le renvoi d'ascenseur, ce que j'appelle le système Rouet-Combalusier. Je parle de toi, tu parles de moi, etc. Oui, moi, je ne me situe pas là-dedans. Truc. Donc, si vous voulez, moi, très franchement... Disons que peut-être je regarde plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. J'ai toujours eu tendance, c'est la curiosité dont vous parliez, à voir ce qu'il y avait, en tout cas plutôt, je dirais, pour employer un terme vulgaire, mais pourquoi pas, nous vivons dans un paysage où les étoiles se mêlent à la merde. Disons que je suis plus enclin à regarder ce qui se passe dans les étoiles que ce qui se passe dans la mer, tout en sachant qu'elle est là et que...
On a quand même le pied dedans, même si on regarde les étoiles.
Absolument. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais je dirais que, par exemple, ce qui m'a fait plaisir là-dedans, c'est que ça m'a conforté, c'est vrai, en pensant que les gens n'ont jamais été des menaces atomisées et des zombies, je dirais, abrutis. Je n'ai jamais pensé cela. Et ça m'a conforté. Depuis 8 mois, de voir ça. Il y a tout, bien sûr, il y a tout. Il y a, comme dans tous les milieux, il y a des crétins, des chacals, des hyènes, des rats. Et puis vous avez des gens qui cherchent, des gens qui bougent, des gens qui ont envie de se prendre en main, des gens qui tâtonnent, qui n'ont pas leur certitude ou leur vérité, mais qui tâtonnent. Et moi, ces gens qui tâtonnent, sans dire j'ai la vérité avec un grand V, je les respecte profondément, et c'est cela en tout cas que je cherche à faire parler et à montrer.
Alors, est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que cette émission, qui est diffusée à 13h30, c'est en fait le système du bouc émissaire, c'est-à-dire que...
De l'alibi, vous voulez dire, plutôt.
Oui, mais quand je dis bouc émissaire, c'est bien ça. C'est-à-dire, on dit aux gens, vous voulez faire votre catharsis, ok, faites ça, vous poussez votre cul de gueule, mais vous faites ça à 13h30, c'est-à-dire en plein désert médiatique, au moment où les taux d'écoute sont misérables.
Enfin, un million de téléspectateurs. Hein,
voilà, un
même.
Million, mais un million. C'est-à-dire un Français sur 50.
Ouais, c'est sûr.
Entendons, mais un Français sur 30, disons.
Ouais. Non, mais...
Bon...
Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est effectivement un alibi qui consiste à dire, mais vous voyez, la télévision d'État, c'est-à-dire FR3, donne la parole au peuple, et vous n'avez pas à vous plaindre, vous pouvez pas dire que vous êtes exclu du système, mais ça se passe à 13h30, c'est-à-dire au moment où tout le monde travaille, où tout le monde...
Alors, je vais vous dire, il est possible que je sois bouc ou alibi, disons que j'ai pris ce qu'on me proposait, on m'avait pas offert de choix, c'est évident que si j'avais le choix... C'est évident, c'est une banalité de base que je vais dire que je serai là une heure de plus en heure d'écoute. Mais disons que déjà cet espace, ça m'intéressait de le prendre, dans la mesure où ça m'intéressait de déjà montrer que ça pouvait exister. Et que ça, non seulement ça pouvait exister, ça pouvait s'installer. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je ne vais pas faire ça pendant 30 ans, ni 10 ans. Mais honnêtement, moi je me bats pour que cette émission demeure. Que cette émission reste, que cette émission surtout, et que, en tout cas, la chaîne, là aussi, la gauche a raté son rendez-vous. Je veux dire, sans faire, vous savez, Café du Commerce, si j'avais eu une chaîne, il est évident qu'il y a une chaîne à faire, d'ailleurs, que ce soit pour la gauche, la droite ou qui que ce soit, qui est ce que j'appellerais la chaîne Agora et la chaîne Forum.
Le Dazibao de notre
jeunesse. Il ne s'agit pas de mutiler, mais je dirais qu'il ne faut pas attendre que les agriculteurs saccagent les préfectures, que les routiers... paralyse les villes pour parler de la vie d'un pêcheur, de la vie d'un agriculteur, de la vie... Écoutez, il y a eu ce qu'on appelle les états généraux, il y a eu ce qu'on appelle les cahiers de doléances...
On va en parler des états généraux dans 5 minutes avec...
Et donc, si vous voulez, non simplement, il y a quand même une tradition chez les Français, et pas seulement chez les Français d'ailleurs, mais enfin, là on est en France, et je crois que ce qui est très important, c'est de parler des choses avant qu'elles n'éclatent. Moi je vais vous dire une chose, je vais vous donner un exemple très très précis. Sur le pouvoir cathartique de la parole, mais qui n'est pas seulement un pouvoir d'alibi, etc. Enfin, encore une fois, le 13h30, c'est peut-être ça. Pour eux, moi, je m'en fous, je prends ce qu'il y a. Mais je vous donne un exemple. J'ai fait une émission à Marseille qui s'appelait « Immigration et seuil de tolérance ». Vous savez qu'on ne choisit pas le public. Le public vient, il n'est pas trié, il n'est pas sondagisé, il n'est pas formaté par l'institut de sondage, machin. Bon. Il se fait que le public qui est venu, donc il y avait un peu de tout, il était en gros et grosso modo... Moitié beurre, moitié Front National.
Grosso modo, c'est pas une représentation de la population locale, d'ailleurs.
Non, d'ailleurs. Et je me suis retrouvé, donc, avec une tension sur le plateau que je ne vous décrirai pas, qui était une tension très forte. Bon, il y avait des représentants un peu de tout. Chacun s'y mit à parler, dit oui, bon, à Marseille, il y a ça, c'est plus possible. Et à un moment donné, la tension est devenue très forte. Et puis, il y a eu des gens qui ont dit, attendez, il y avait un entrepreneur, là, Beurre qui était là, il a dit, écoutez monsieur, moi j'ai eu le prix de l'expansion, j'ai fondé une entreprise, j'ai fait 400 emplois, et je peux vous dire, venez chez moi, vous verrez qui est employé et pour qui j'ai créé des emplois. J'ai pas créé des emplois pour les Arabes, j'ai créé des emplois pour les Français, bon. Et puis, bon, chacun a dit son truc, et ce qui était amusant, et ce qui se passe souvent après les émissions, les gens restent sur le plateau, et là, j'ai vu les deux représentants du Front National s'échanger leur carte de visite avec les Beurs. Alors, je ne veux pas dire pour ça que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'on s'embrasse et que tout va bien. Je veux dire simplement qu'il y a eu parole échangée.
Voilà,
c'est peut-être mieux que s'il y avait eu coup de couteau échangé. Voilà.
Oui, ça blesse moins. Enfin,
ça blesse moins.
Probablement moins définitif. Maintenant, est-ce qu'il vous paraît possible que cette émission soit un jour... diffusé à une heure de grande écoute, comme on dit, c'est-à-dire à 8h30, parce que c'est une émission qui apparemment mérite autant d'intérêt que, je ne veux pas vous mettre en difficulté avec vos confrères, mais certaines émissions de, je ne sais pas le nom de cette dame qui nous présente un jour un homosexuel divorcé qui a décidé de s'engager dans la Légion étrangère après avoir assassiné sa fille, ou je ne sais pas quoi, le lendemain. Bon, ça mérite au moins... ça aussi, c'est l'expression normale du peuple.
Oui, j'espère. Écoutez-moi, je leur ai dit, par exemple, je peux vous dire, il n'y a pas de secret, j'ai dit, écoutez, peut-être que vous pourriez... Je ne veux pas du tout, j'ai rien contre la classe. Mais peut-être que on pourrait faire quelque chose aussi à ce temps-là. Peut-être que ce serait moins rigolo, je ne sais pas. Mais enfin, bon, on verra. C'est vrai qu'on ambitionne, l'équipe et moi-même, on ambitionne de pouvoir fonctionner comme justement miroir qui réfléchit, comme disait l'autre.
Et qui ne se contente pas de refléter, comme disait Powell.
Qui ne se contente pas de refléter. Eh bien, on espère une heure de grande écoute. Cela dit, bon, ça, c'est pas moi qui décide. J'espère en tout cas les convaincre assez vite. En tout cas, on a vu comment on s'installe. Et je peux vous dire une chose, juste un mot. Je suis très frappé quand je me balade en France. c'est que les gens ne viennent pas me dire, et vraiment il y a beaucoup de gens de plus en plus qui viennent dire, ah oui, ils viennent pas dire, ah on vous a vu à la télé. Bon, on vous a vu à la télé, on voit tout le monde à la télé, c'est un peu énorme. Ils viennent me dire, attendez, pourquoi vous parlez pas de ce sujet? Vous savez qu'il faudrait parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fonction de médiateur, les gens vraiment sortent pour me dire ça, pas pour me dire, ah, on a vu la télé, etc. Mais pour dire, mais vous savez, il faut parler de ça, c'est un sujet qui est important. Et ça, je l'ai de plus en plus.
Alors, j'ai l'impression que ça vous donne pas la grosse tête. La preuve, c'est que vous êtes ici ce soir. Mais apparemment, vous supportez assez bien cette fonction qui n'était peut-être pas prévue au départ, la fonction de médiateur.
Non. C'est, disons que c'est une fonction de passeur. Je vous dis, je la ferai pas pendant 10 ans. Mmh. Parce que
c'est
l'écriture,
fatigant,
pour moi, c'est important. Oui, c'est très fatigant. Ouais. On enregistre 4 émissions. C'est dans les conditions du direct en 2 jours. C'est quand même assez fatigant. Heureusement, il y a une bonne équipe. Je suis pas seul. Mais c'est fatigant. C'est pour ça que je vous dis, comme l'écriture pour moi est très importante, peut-être qu'un jour j'en ferai une hebdomadaire et pas une quotidienne comme maintenant, ou quasi quotidienne. Cela dit, vraiment, je me bats. Je sais pas si j'arriverai pour que cette émission reste, que quelqu'un d'autre la présente un jour, mais que vraiment le français, si vous parliez, en tout cas, ça me paraît fondamentalement important, au-delà de moi et au-delà de l'émission.
En tout cas, c'est une émission intéressante, c'est une idée intéressante de l'avoir confiée à quelqu'un comme vous, qui n'êtes pas un animateur professionnel de télévision, qui n'êtes même pas un communicateur professionnel, sinon en tant qu'écrivain et en tant qu'observateur. Et on peut conseiller aux auditeurs de la regarder, ça fait partie de ces émissions qui ne déshonorent pas la télévision, ils s'en foutent beaucoup. Et vous disiez que vous aviez envie de revenir à l'écriture, je voudrais vous poser une question précise parce que elle donne une. Enfin, votre réponse éclairera quand même un débat qui a eu lieu il y a quelques années d'une lumière nouvelle. Donc, Attali, dans son livre qui vient d'être publié, explique qu'au fond, votre livre, l'œuvre de Caton, a été en quelque sorte commandé par le prince.
Oui.
Quelle est la vérité de cette affaire?
Alors, je vais vous dire.
Il faut rappeler en deux mots, si vous permettez, qu'il s'agit d'un livre qui était censé être le regard d'un homme de droite, à la fois lucide et désabusé sur la situation politique, qu'il était signé Caton. Par référence naturellement à Caton le censeur, et que pendant des mois et des mois et des mois, toute la population médiatique s'est interrogée sur la question de savoir
et politique.
Qui était ce Caton, qui pouvait bien se cacher, quel homme de droite pouvait bien, quel vieux militant, enfin pas vieux militant, mais vieux politicien de droite rompu sous le harnais et rompu à toutes les ficelles, pouvait bien se cacher derrière ce pseudonyme. Puis on a fini par savoir que c'était vous. Et maintenant, Attali dit, mais en fait, il raconte une histoire qui donnerait à penser que c'est Mitterrand qui vous a dit, soyez gentil, faites donc ça, vous qui avez le talent nécessaire, on va bien s'amuser.
Alors je vais vous dire, ça s'est passé, ce que raconte Attali est à la fois vrai et faux. En deux mots, ça s'est passé comme ça, parce que je vous raconte, c'est amusant. Il y a eu un détournement, si vous voulez. En gros, vous savez que j'avais fait, sous le pseudonyme de Philippe de Comines, les 180 jours de Mitterrand. Mm-hmm. Bon, il y avait eu aussi le succès qu'on connaît, mais c'était une politique fiction.
Et là, le mystère n'avait pas résisté fort longtemps.
Un mois et demi. Un mois et demi. Et après, il y a eu la rupture du programme commun. Et puis bon. Non, ça avait été un mois et demi. Devra Caton un an. Et alors, effectivement, Attali m'avait dit, voilà, Mitterrand voudrait absolument voir, raconter l'histoire. Et Mitterrand me dit, écoutez, vous ne feriez pas un pamphlet de politique fiction sur, à l'époque, les municipales. Je lui dis, écoutez, politique fiction des municipales, ça n'a aucun intérêt. Non, enfin, pour moi, refaire une politique fiction, non. Parce que ça... Et puis, j'y pense plus. Et un jour, je me dis, mais au fond, il y a un livre à faire. Et là, vous avez parlé de situationniste. Et c'est vrai que j'ai pensé à une histoire situationniste. Je me suis dit, au fond, il y a un pamphlet, mais alors qui m'intéressait à moi, donc c'était plus la commande, mais c'est vrai que c'était partie de cette conversation que j'avais eue avec Attali. Je me suis dit, mais au fond, comment est aujourd'hui un homme de droite qui a lu, qui est dans le sérail, et qui pourrait regarder un peu la chose. Et qu'est-ce que je disais? On peut relire. Parce que c'est pour ça qu'il y a eu, quand je dis des tournements, je dis, écoutez, laissons faire la gauche, elle va gérer à droite. Vous savez, j'avais dit, les socialistes parlent des socialistes, maintenant ils se sont remis à parler français. Et dans 10 ans, nous ramasserons les morceaux.
C'était bien vu.
Et je veux dire... Alors, il y a eu donc des tournements, c'est vrai que c'est parti de là, tout à fait, et puis j'ai eu l'idée, je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire un truc qui s'appellerait de la conquête, Caton. Et voilà, donc c'est vrai que c'est parti d'une commande, d'une proposition, que j'ai retournée en pamphlet. Et ce pamphlet-là était la vérité de la droite et de la gauche de cette époque. Et moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de montrer la vérité des idées à un moment donné, enfin d'essayer. Et si ça a eu ce succès, c'est parce que les gens voyaient bien que, quelque part, ça déterminer ce qui est en train de se passer en France à ce moment-là.
Merci André Bercoff. Nos auditeurs sont... Je veux dire que je m'attendais à avoir des propos un peu tendus, parce que c'est, vous savez que c'est une émission qui est plutôt de droite en général. Enfin, on vous l'a peut-être pas caché.
Non, non, on me l'a dit, on me l'a dit. On me l'a dit.
Alors, votre émission sur FR3 est trop courte. Félicitations à André Bercoff pour l'émission du 1er avril qui était un coup superbe. Ça, c'est vrai que c'était quand même un grand moment de télévision fiction, enfin, de reality fiction, si j'ose dire. Vous nous dites en deux mots pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu. Comment ça
bah écoutez, je leur ai dit qu'on allait faire une émission sur couples en danger. J'ai donc demandé à des comédiens de nous faire vraiment les couples qui se déchirent. L'une qui voulait rester vierge jusqu'au mariage et son petit ami n'était pas d'accord. L'autre qui trompait son mari parce qu'il était VRP, il n'était jamais là. Et les gens donnaient des conseils. Il y avait un sexologue fou qui jouait son truc, qui sortait une chasseur de...
Jolie pléonasme.
Oui, oui. qui sortait une chasseur de chasteté en disant, mais oui, mais c'est bien la ceinture de chasteté. Et le public, qui n'était pas au courant, évidemment, commence à réagir. Et à un moment donné, la fille se met à pleurer. Et alors, un des types dit, monsieur Bercoff, je vous respecte, mais alors vous faites du sou de chavane, vous faites du sou reality show, c'est vraiment, c'est dégueulasse, je m'en vais. Lui, vraiment, indigné, s'en va. Et à ce moment-là, je dis, écoutez, voilà, c'était merci d'être parti, c'était mon poisson d'avril aux téléspectateurs, méfiez-vous d'un certain nombre de reality shows.
Ouais, et ça va beaucoup plus loin qu'on pourrait l'imaginer, ce genre de plaisanterie, parce que ça montre bien que...
C'est toujours le masque, prêcher le faux pour avoir le vrai, quelquefois, c'est pas mal.
Et puis, je vais vous donner la meilleure réaction, à mon avis, enfin la plus flatteuse pour vous. Une auditrice dit « Je boycottais la télévision, je regarderai désormais l'émission d'André Bercoff ». Donc, vous avez fait gagner
une téléspectatrice.
Une téléspectatrice. Bah, écoutez, c'est pas rien quand même. Merci André Bercoff. Vous pouvez rester si vous voulez. On va parler d'une chose qui peut-être peut vous amuser, mais moi qui me passionne, c'est le rôle des francs-maçons dans l'organisation des États généraux de 89.
Juste un mot. Malheureusement, je suis obligé de partir. Je m'en excuse. Est-ce que vous avez reçu ce livre sur les rapports entre les francs-maçons et la religion catholique qui est paru au PUF? Qui est un bouquin tout, je vous le dis, parce qu'on va faire une émission sur les francs-maçons et l'Église, enfin sur les rapports Église-francs-maçons. Et c'est un livre tout à fait passionnant qui vient de paraître, malheureusement j'ai oublié l'auteur, aux Presses universitaires de France. Donc je pense que...
Daniel Raffard-Debrienne et moi allons nous précipiter là-dessus. Merci de votre visite et merci Monsieur Pasquier de nous avoir amené cet invité. À bientôt. Donc, Daniel Raffard-Debrienne, vous êtes le spécialiste, vous êtes un des spécialistes, mais en France le plus connu certainement du Saint-Suaire. On en parlera dans une émission prochaine. On fera un point sur l'état des recherches et des connaissances. Mais là, vous vous êtes illustré dans un autre de vos domaines de compétences, qui est l'histoire de la Révolution, et en publiant dans Renaissance catholique un papier intitulé « Comment les francs-maçons préparèrent les états généraux de 89 ?» Et c'est à partir... ce travail d'historien, vous l'avez fait à partir d'un cahier que vous avez retrouvé et qui s'intitule « Le détail de ce qui s'est passé dans les assemblées du bailliage de Chaumont en Vexin français relativement aux états généraux de 89 et particulièrement dans celle de la noblesse ». Et alors là, je vais vous laisser la parole parce que vous allez nous expliquer ce que vous avez découvert.
Voilà. Alors le problème donc des préparations de la révolution par la franc-maçonnerie est connu depuis longtemps. On sait que toute la préparation idéologique sort des loges. Toutes les idées, y compris d'ailleurs la fameuse devise de la République, les déclarations des droits de l'homme, tout ça, ça a été forgé dans les loges maçonniques. On a constaté d'autre part que les états généraux ont été préparés. On l'a constaté sans le prouver. C'est-à-dire qu'on a constaté que sur 1200 députés aux états généraux, on connaissait au moins 500 francs-maçons, plus ceux qu'on ne connaît pas. On a constaté aussi que différents cahiers de doléances étaient faits d'après des modèles dans toute la France. Donc on en a déduit qu'il y avait une préparation maçonnique. Mais on n'en avait pas la preuve. Or cette preuve, c'est justement ce que je publie. C'est la première fois qu'on le prouve. On le prouve à l'occasion donc de cette assemblée du bailliage de Chaumont. Les élections se sont faites et les cahiers d'oléances se sont faits par bailliage. Le bailliage, ça correspond à peu près à un arrondissement de nos jours. Les électeurs se réunissaient au chef-lieu du bailliage pour les trois ordres, noblesse, clergé et tiers-état, pour, d'une part, rédiger ce qu'on a appelé des cahiers de doléances, qui sont en fait des suggestions confiées à leurs députés pour la tenue des États généraux, et d'autre part, ils élisaient leurs députés. Alors, disons que c'est là que tout s'est passé. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce cahier, dont je suis propriétaire, il n'a jamais été publié, il est resté dans des archives privées que j'ai chez moi, j'ai 42 cartons d'archives privées chez moi, il est resté complètement ignoré depuis 1789. Alors, je l'ai publié presque en complet dans la revue La Renaissance catholique, enfin, il y a eu quelques phrases allégées, c'est tout, qui sont indiquées d'ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce cahier a été écrit le 10 avril 1789, c'est-à-dire 3 mois avant le fameux 14 juillet. Donc, le personnage qui l'a écrit n'a pas pu être influencé par les débuts de la Révolution. Alors, c'est un jeune homme qui était un jeune officier de cavalerie, qui faisait partie des électeurs de la noblesse. Et il a décrit ce qui s'est passé dans son bailliage de Chaumont-Vexin, et essentiellement dans la réunion de son ordre, mais également avec des vues assez précises sur ce qui s'est passé dans les deux autres ordres. Alors, ce qui s'est passé, qui est très curieux, c'est que l'on voit quelques personnages s'infiltrer là et prendre l'affaire en main. Et ceci par le procédé des procurations. Si on prend par exemple les électeurs de la noblesse de ce bailliage étaient, je crois, à peu près 75. Seule une trentaine s'est déplacée. Une quinzaine n'a pas donné signe de vie, et tous les autres ont remis des procurations. Alors il y avait des gens, trois personnages, un prêtre, oui, qui a pris en main l'élection, qui a pris en main le clergé. Par procuration, le panard.
Le
Pénat, c'est ça. Par procuration. Et puis deux autres, le chevalier d'Oraison et le prince de Léon, l'un provençal, l'autre breton, ont pris en main, eux, l'assemblée de la noblesse, et incidemment d'ailleurs aussi le tiers-état. Alors qu'ils n'étaient là également que par procuration. Ce qui est très curieux, c'est que ces procurations donnaient le droit d'être élus. Par exemple, l'abbé de Penat a été élu député. Il était franc-maçon. Il était élu député. Et les autres ont fait élire un brave gentilhomme, enfin, le brave fait peut-être beaucoup dire, gentilhomme du Vexin, qui était en fait un commensal du duc d'Orléans, lequel duc d'Orléans était le grand maître de Grand Orient de France. Et ils ont imposé le cahier de doléances préparé par ce monsieur-là.
En fait, ce que vous démontrez, c'est que 4 francs-maçons se font remettre par des indifférents ou des empêchés, ou etc., des procurations, au moyen desquelles ils se portent eux-mêmes au fauteuil de député, au siège de député des trois ordres, c'est-à-dire oui. Y compris le clergé, ce qui est quand même paradoxal, la noblesse et le tiers-état, et à partir de là, ils vont eux-mêmes rédiger les fameux cahiers de doléances, en fonction d'un modèle d'ailleurs...
En fait, oui, ils apportent tout fait. Et alors ce qui est très curieux, c'est que ce chevalier de raison, qui est au fait le maître d'œuvre de l'histoire, est venu, et il le dit, alors dans ce document, il n'est mis nulle part le mot franc-maçon, que connaissait probablement pas l'auteur. Mais j'ai vérifié, tous les personnages sont bien des francs-maçons. Et on pourrait d'ailleurs faire des recherches plus approfondies, mais je ne suis pas spécialisé dans ce genre de recherche. Mais ce chevalier de raison dit à un moment donné qu'il est venu avec toutes sortes d'imprimés, de notices pour mener l'affaire. Et il est dit qu'il est envoyé par une société dévouée au bien public.
Oui.
Et qui a expédié une vingtaine de personnages du même type dans les différents bailliages. Vous voyez, c'est quand même très clair. Et alors, ce qui est frappant aussi, c'est que les assemblées de bailliage n'ont pas eu lieu le même jour comme on fait les élections maintenant. Elles ont été étalées sur plusieurs mois. De sorte que ces mêmes personnages ont fait un certain nombre de bailliages chacun. Par exemple, le prince de Léon, a été se faire élire 2 mois plus tard dans le bailliage de Paris.
C'est aussi information. Par les mêmes méthodes.
Par les mêmes méthodes. Ouais. Certainement, certainement. Ouais. Je dis certainement puisque, je vous dis, c'est le seul document qui décrive avec précision ces méthodes. Et c'est très étonnant. Et d'ailleurs, il y a tout de même, à la fin, là, l'auteur montre son indignation pour ceux qu'il a vus, la cabale qu'il a vue. Il en parle tout le long de la cabale, il en parle surtout à la fin. Et il dit que, d'après ce qu'il a entendu dire, ça avait été encore pire dans les autres bailliages.
Il dit, on m'a assuré que dans les assemblées de la plupart des bailliages du royaume, il y avait eu des intrigues, peut-être plus encore que dans le nôtre. N'en soyons point étonnés, mon ami, vous connaissez l'état actuel des esprits, et nous savons de plus que partout où il y aura des hommes, il se trouvera des passions.
Oui, ça c'est gentil. Enfin, oui. Il faut dire, mais je répète, il l'écrivait le 10 avril 1789. C'est-à-dire une époque où on ne pouvait pas se rendre compte de tout ça. Baruel, qui a commencé à parler des sous la Révolution, l'a fait quand même quelques années plus tard.
Alors, il faut savoir que le texte expliqué, présenté par vous, figure dans un document, enfin dans une revue qu'on peut se procurer, qui s'appelle La Renaissance catholique, que tout le monde connaît.
Oui, et où on publie des articles extrêmement passionnants de grands auteurs, comme oui. Serge Beketch, par exemple, Marc Dem, dont vous parliez tout à l'heure, avec qui vous parliez tout à l'heure.
C'est passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné, comme disait
Voilà, tout à fait.
Alors effectivement, moi je crois que c'est un document à lire naturellement, mais surtout à garder, parce que il permet d'étayer des argumentations. Quand on a une conversation avec quelqu'un qui n'est pas parfaitement informé de la question, on peut lui faire lire ça en disant, écoutez, si vous nous dites que la franc-maçonnerie est un innocent amusement de jeunes gens sympathiques et tolérants, réunis dans le but de pratiquer la philanthropie en rond et en couronne, eh bien, voilà, lisez ça, et vous allez voir comment ces gens-là travaillent.
Oui.
Renaissance catholique, c'est le numéro de mars-avril 93, il vaut 28
voilà.
francs.
C'est ça. Alors, il vaut 28 francs, mais on va faire un petit effort, parce que c'est un document qui mérite d'être diffusé. Oui, le numéro coûte 28 francs, l'abonnement pour 6 numéros par an, c'est 150 francs. C'est une revue qui est en plein développement, qui va augmenter encore cette année largement de volume et d'intérêt. En l'occurrence...
On va avoir du mal, hein, Philippe, à résister face à cette concurrence-là. Ah oui, 6 numéros, ça va.
6 numéros, ça tient. Oui, non, il y a de la place.
On en a 40.
Oui. Mais j'espère que nous y participerons aussi, d'ailleurs. Alors, il faudrait écrire à Renaissance catholique, 89 rue Pierre-Borossolette, à Issy-les-Moulineaux, c'est-à-dire 92 130 Issy-les-Moulineaux. Demandez donc ce numéro 23 et ajoutez, mettons, 15 francs, 6 timbres.
Voilà, vous mettez 6 timbres, ben c'est gentil, ça. Je reconnais bien là votre cœur généreux.
Ah.
Et le cœur généreux de Renaissance catholique. Donc 6 timbres à 2 francs.
Voilà, 2 francs 50.
Et vous recevrez ce document. Qui est passionnant, c'est vraiment quelque chose à lire et à garder.
Ah, puis c'est unique. J'insiste beaucoup. C'est unique.
Merci Daniel Raffard-Debrienne. Je vous rappelle que vous revenez nous voir dans 15 jours pour un point sur le Saint-Suaire.
C'est ça.
Mais on peut peut-être en dire 2 mots aujourd'hui. Vous en êtes
oui,
tout de vos conférences, de vos tournées de conférences.
Ah mon Dieu, je crois que je vais dépasser les 90 d'ici 8 ou 10 jours. J'en ai encore 7-8 d'ici le 15 mai. Et puis, après, ça reprendra surtout à l'automne, parce que nous avons en juin à Rome
le
symposium international, ce qui me prend aussi pas mal de temps, puisque je suis chargé de la commission historique. Et après, on soufflera un peu plus et on pourra faire des articles un petit peu plus amusants, plus rigolos, j'espère. Et surtout, je viendrai vous parler dans 15 jours d'un livre que je viens de publier, qui est une synthèse de tout ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui sur le Saint-Suaire. Ça s'appelle d'ailleurs « Le secret du Saint-Suaire ». Et ça se trouve dès maintenant dans les bonnes librairies. Il n'y en a pas des kilos, enfin, une diffusion, le signe de piste, des choses comme ça.
Toutes les librairies.
Je viendrai en reparler dans
qui vendent de la bonne littérature.
Voilà.
Merci encore, Daniel Raffard-Debrienne, et à bientôt, peut-être dans les colonnes du Libre Journal, car je vous rappelle que vous êtes invité à y faire
miroiter les facettes de votre esprit.
Oui, oui, j'y compte bien.
Vous avez fait une démonstration dans un livre absolument délicieux qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Faites l'humour, pas la guerre.
Pas la polémique.
Pas la polémique.
Pas la polémique, oui.
Et qui est un recueil de petites chroniques et de petits tests et jeux d'hiver.
Voilà.
Et d'été, d'ailleurs.
Et d'été, qu'on trouvera d'ailleurs dans la même librairie, si on a envie de se le procurer. Oui, ben je vais faire un gros effort. Là, je vais tâcher de me libérer des problèmes du symposium. Et puis après, ne vous inquiétez pas, ça
alors, on, donc, dans 15 jours, je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est ça qu'on est convenu. Vous venez nous faire un point précis sur l'affaire du Saint-Suaire.
Exactement.
À bientôt. Merci.
À bientôt.
Alors, on va terminer comme d'habitude, posément. Enfin non, pas comme d'habitude, parce qu'en général, on termine sur les chapeaux de roue. Mais là, on a un petit peu de temps. Donc, je vais pouvoir vous donner la quasi-totalité des annonces. Vous voulez quelques annonces ? Tenez, ma bonne Victoria.
Mais merci.
Alors, vous commencez, puis on va faire alternance, comme dans les radios chics.
Jean-Yves Le Gallou, président du groupe Front National au Conseil Régional d'Île-de-France, vous invite à une conférence de presse, mardi 27... Parce que nous, ça les intéresse.
Non, mais c'est le sujet qui est intéressant. Quand
sur le thème, débat sur les banlieues, le point de vue du Front National.
Voilà. Alors, il faut savoir... Non, mais c'est pourquoi je vous
c'est
ai donné ça
à lire. C'est parce que le mardi 27 et le mercredi 28, l'Assemblée nationale débattra sur les banlieues.
Voilà. Et il sera intéressant de voir, de lire la presse du lendemain, c'est-à-dire du mercredi 28 avril, pour voir quel sort
sera fait
à la conférence de presse de Jean-Yves Le Gallou. Vous pourrez ainsi vérifier le fonctionnement des institutions médiatiques de ce pays. Et vous pourrez voir comment un parti politique qui représente à peu près 4 millions d'électeurs...
Attendez, je vais vous le dire parce qu'ils le disent. 3 158 843
voilà,
auditeurs.
3 millions d'auditeurs et plus, d'électeurs et plus, peut être à la fois chassé de l'Assemblée nationale et des médias. Je rappelle, et je le rappellerai encore plusieurs fois, que le frère Alain Hochmiller de la Fraternité Sainte-Croix de Riaumont sera ordonné par son éminence le cardinal Augustin Maillère le dimanche 20 juin 1993 au village d'enfants de Riaumont au cours de la grand-messe de 10h. Si vous partez de Paris à 7h, 7h30, vous êtes à Riaumont à 10h sans problème et vous pouvez assister. Vraiment, je vous conseille de venir parce que les cérémonies sont admirables. Et puis parce que comme ça vous pourrez faire la connaissance de ce village de Riaumont qui est une institution exceptionnelle.
Attendez, une exposition sur la chouannerie et les guerres de Vendée à la mairie du 4e arrondissement, 48 rue Vieille du Temple, espace des Blancs-Manteaux, de 11h à 18h tous les jours.
Voilà, ça c'est dans le prolongement de l'émission de Jean Ferré de lundi dernier.
Alors quelqu'un demande l'heure de la conférence de Jean-Yves Le Gallou, mais
non,
c'est une conférence de presse, donc on n'est pas invité. Voilà. Mais c'est pour voir le lendemain comment c'est répercuté dans la presse.
Exactement.
Voilà.
J'annonce d'ores et déjà, et on y reviendra évidemment, que le week-end, la fin de semaine ou la Dominique de Pentecôte, moi je tiens quand même à la Dominique. Le monsieur de l'Association pour la défense de la langue française a beau me dire que ça marchera jamais et que lui, il se bat pour fin de semaine. Je trouve que la Dominique, c'est joli. Alors, pour la Dominique de Pentecôte, c'est-à-dire les 29, 30 et 31 mai, les pèlerinages Chartres-Montmartre, un seul Dieu, une seule foi, pèlerinage de la tradition catholique. Alors, pour tout renseignement, on s'adresse 10 rue d'Édimbourg, 75 008 Paris. Le téléphone est le 42 93 57 25. Et le pèlerinage de chrétienté de Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres, le même jour, pour que France et pour que chrétienté continue, ce sera le thème du pèlerinage. Et là, tous les renseignements peuvent être obtenus à l'association Pèlerinage de chrétienté, 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris, téléphone 46 33 18 97.
On nous demande de rappeler l'adresse de Renaissance catholique.
L'adresse de Renaissance catholique.
Alors, Renaissance catholique, je cherche. Voilà, 89 rue Pierre-Brossolette, 92-130, ici les Moulineaux. Hein, 89 rue Pierre-Brossolette, 92-130, ici les Moulineaux.
J'avais reçu un message d'un auditeur qui me demandait si, au fond... Le fait de donner la parole à des crucifilistes, à des bouquéphilistes, n'était pas un moyen d'échapper à la contestation et à la polémique politique. Si, bien sûr.
Je l'ai vu tout à l'heure, mais oui.
Lui menace de supprimer sa cotisation si on parle pas de quoi. J'ai pas gardé en mémoire.
Moi non plus.
Une autre forme de broderie probablement. Donc voilà, je lui signale que l'émission lui est ouverte s'il veut venir parler d'une autre forme de broderie. Nous ne faisons pas de racisme entre les crucifilistes et les je sais pas quoi philistes. Non, cette émission est une émission ouverte où tout le monde a la parole. Et même, je sais pas, si les gens veulent venir parler de dentelle, par exemple, je suis prêt à les recevoir. Vous voyez à quel point on pousse quand même le libéralisme. Voilà. Alors à propos, d'ailleurs, je rappelle que le 7, 8 et 9 mai aura lieu dans le cadre des salons du 18e de l'ancien ministère des Affaires étrangères de Versailles, une exposition Fleurs et Livres. Et je rappelle ça parce que, comme nous l'avait dit notre invité l'autre soir, ces salons ne sont jamais ouverts au public. C'est très 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 exceptionnel et ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et puis il y a une autre fête des plantes vivaces qui se tiendra le 30 avril, 1er et 2 mai 93 au château de Saint-Jean de Beauregard. On va jusqu'aux Ulysses par l'A10, on sort aux Ulysses et on prend la départementale 35 en direction de Chartres. Et pourront y aller à cette exposition, à cette fête des plantes vivaces de Saint-Jean de Beauregard, tous ceux qui ne participeront pas au deuxième pèlerinage Compiègne-Soissons-Reims, qui se déroule les 30 avril, 1er et 2 mai 93, sous l'invocation Gesta Dei Père Franco, c'est le pèlerinage de Saint-Rémy. Alors, pour tout renseignement sur ce pèlerinage de Saint-Rémy, il faut s'adresser à Mademoiselle Elisabeth Baston, 12 rue Raymond Losserand, 75-014, Paris. Non, c'est tout ce que vous voulez nous dire? Vous voulez rien nous dire? Bon, ben, je continue alors. Je signale que le 7e colloque du conseil scientifique du Front National, d'une résistance à l'autre, l'histoire en question de 40 à 93, aura lieu le samedi 15 mai 93 à l'hôtel Mercure, congrès 12 boulevard Maréchal Joffre, 38 000, Grenoble, de 9h à 19h. C'est organisé par Michel Dornano, conseiller régional, et Jacques Robichet, président du conseil scientifique. Et vous pourrez entendre Bruno Gollnisch, Pierre Vial, le général Jean Valette d'Osla, qui était chef du maquis au Savoyard, Monsieur Raymond Mérantelet, qui était ancien résistant de l'armée secrète, Maître Jean-Baptiste Biaggi, avocat et grand résistant, le docteur Jacques Lafay, croix de guerre 39-45, croix du combattant volontaire de la résistance, le docteur Marc Mattei, médaillé de la résistance, Robert Emerdinger, président du Cercle national des Français juifs, médaillé de la résistance, André Figueras, médaillé de la résistance, Yvon Blot, qui n'est pas médaillé de la résistance parce qu'il était un peu jeune, et Bruno Maigret, tout ça quand même pour vous montrer que le Front National n'est pas très exactement le rassemblement d'anciens nazis que les menteurs et les crétins essayent de nous décrire. Autre chose, mais ça je vous l'ai dit plusieurs fois, et demain, 23 avril 93, de 9h à 18h, Marie-Josée de Bravoura expose ses sculptures au CNIT, stand H4.3 Albinoni. On se croirait en l'an 3000 quand on parle comme ça. Et puis, pour en finir, lundi 3 mai à 20h à l'amphithéâtre 115 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e, conférence-débat de François Algou, président du Cercle de la Cité Vivante, et David Chenel sur les dangers de la pornographie. Et enfin, une conférence le mercredi 28 avril à 20h30, salle des fêtes, 18 avenue de Ceinture à Enghien-les-Bains, Islam et chrétienté, par le père Maurice Avril. Voilà. Si vous voulez avoir des précisions, des adresses, des numéros de téléphone,
vous pourrez téléphoner, mais je vous en supplie, pas avant demain 10h, au 42 46 77 33, qui est le numéro de téléphone du Libre Journal de la France courtoise. C'est un numéro où Françoise Varlet vous attend pour vous donner toutes les informations que vous pouvez, toutes les informations supplémentaires que vous pouvez souhaiter. Mais je vous en supplie pas avant demain 10h parce que autrement on ne peut pas arriver à travailler. 42 46 77 33. Merci d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 21 avril 1993, diffusé dimanche 22 février 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.